Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage, les moments phares de la semaine avec un Mathieu Noël toujours bien entouré. Eva Rock d'un côté, sa complice, un invité de l'autre. Et bien sûr, les journalistes d'Europe 1 prêts à batailler avec un bon sujet pour remporter le titre de chroniqueur du jour. Vous votez en semaine en tout cas. Et le week-end, nous, eh bien, on se replonge dans l'ambiance. Alors durant cette prochaine heure, l'explorateur le plus célèbre de France, Jean-Louis Etienne, nous révélera le pire et le plus drôle de ses expéditions. Autre révélation signée Axel de Tarlé, la bière prospère au pays du vin. Notre consultant scientifique Alain Siroux est aussi de la partie pour parler de l'univers et des étoiles. Et puis il y aura le comédien Jean-Paul Rouve et le slameur Abdal Malik qui nous parleront de leur actu. Mais on commence avec Mathieu Charrier avec son sujet. Il essaie de séduire Abdal Malik justement.
Dans les starting blocks, un homme trépigne, un homme devenu journaliste, mais qui, comme moi, est certainement passé à côté d'une belle carrière d'acteur. La preuve, notre bout d'essai l'autre jour pour le remake de La Cage aux Folles était franchement au niveau de Poiret et Serreau. Les pingouins et les manchots sont des oiseaux marins, un seul des deux vole. Lequel ?
Les manchots, ils sont manchots.
Il est peut-être pas trop tard, Mathieu, on va s'inscrire en couple Laurent. En tout cas, Matounet, ce matin, vous avez essayé de nous parler d'un sujet fort. Cessez de rire parce que là, l'enchaînement va être compliqué. Oui. Vous nous parlez de la façon dont la bande dessinée, qui est votre autre spécialité, oui, rappelons-le, donne aujourd'hui la parole aux victimes d'agressions sexuelles.
Oui, parce que viennent de sortir conjointement deux bandes dessinées qui parlent des agressions sexuelles que subissent les femmes. D'abord, du choc que ça représente, puis de la reconstruction. La première, elle s'appelle « Les crocodiles sont toujours là ». Les crocodiles, ce sont les hommes, justement, lorsqu'ils se transforment en prédateurs sexuels. Et toujours là, parce qu'il y avait déjà eu, il y a 5 ans, une première bande dessinée autour de ces crocodiles. Et, sauf qu'on se rend compte qu'entre-temps, l'affaire Weinstein, la vague MeToo, on se rend compte en lisant ces bandes dessinées que pas grand-chose n'a changé. Les auteurs, Thomas Mathieu et Juliette Boutan, racontent notamment comment, le soir de la victoire des Bleus en Coupe du Monde, on s'en rappelle tous, en juillet 2018, des dizaines de femmes se sont faites agresser sur les Champs-Élysées. Les hommes, évidemment, profitant de la liesse pour se serrer, pour se frotter, etc. Où il y a aussi une histoire incroyable, tout est inspiré d'histoires vraies. Une histoire d'un papa qui envoie son fils de 4 ans. Il lui dit comme ça, vas-y, va draguer les jeunes femmes là qui sont là. Le gamin a 4 ans. Hein. Va draguer les jeunes femmes, va te faire prendre en photo avec elles. Alors, il fait ça sur le ton de la plaisanterie, évidemment, mais il dit, allez, drague-les, je vais les prendre en photo, ça vous dérange pas, mesdames hein? Ben, si, en fait, si. Ça les dérange, les dames, parce que si on se laisse même avec un gamin de 4 ans, c'est pas une arme pour draguer ou faire des choses comme ça.
Vous-même, Mathieu, vous avez l'impression que les messages passent mieux en dessin.
Oui, parce que ce qui est fort, en fait, dans cette bande dessinée, notamment les crocodiles, c'est que tout le dessin est en noir et blanc, sauf les hommes prédateurs sexuels qui sont représentés sous forme de crocodile et donc en vert. Ce qui fait que dans le dessin, ils ressortent encore plus que tout ce qui se passe autour et du coup ils se font encore plus menaçants et c'est ça la force de la bande dessinée, c'est que vous pouvez comme ça glisser quelques petites subtilités que vous ne voyez pas forcément à l'image quand vous mettez en scène, si vous faisiez jouer les scènes par des acteurs ou par des figurants, vous ne pourriez pas avoir cette opposition entre ces crocodiles verts menaçants parce qu'on les voit se tapir parfois dans le coin d'une pièce. Et la femme, au début, elle ne se rend pas compte qu'ils sont là à les observer. Vous savez, c'est ces fameux jeux de regard où toutes les femmes vous racontent que parfois elles se sentent oppressées juste par des regards. Et puis aussi une deuxième bande dessinée qui est sortie, qui s'appelle Touchée. Et là, l'auteur dresse le portrait de 3 femmes victimes d'agressions sexuelles. Il y a Tamara qui enchaîne du coup les excès pour tenter d'oublier cette agression. Il y a Nicole qui, elle, s'isole complètement. Et puis, il y a aussi Lucie qui, désormais, a tellement peur qu'elle dort chez elle avec un couteau à la main. C'est un peu les 3 réactions typiques, entre guillemets, de femmes victimes d'agressions sexuelles. Et ces 3 dames-là vont suivre une thérapie à base d'escrime, qui est une thérapie qui existe dans la vraie vie, pour essayer comme ça d'exorciser un peu leur mal-être. Parce que ce qui est pratique avec l'escrime, c'est qu'évidemment, derrière le masque de protecteur de votre
adversaire,
vous mettez qui vous voulez. Et l'auteur raconte qu'en fait, c'est une thérapie qui fait beaucoup de bien à ces femmes-là, parce que l'escrime, c'est à la fois se défouler, à la fois devoir contrôler évidemment ses coups. Donc voilà, c'est 2 bandes dessinées que je vous conseille, et ça permet de dire aussi et redire que la bande dessinée, justement, est un média qui permet de parler de tous ces thèmes-là et de montrer les choses, parfois de façon assez crue, parce que comme c'est du dessin, on peut tout montrer et presque tout dire, ce qu'on peut pas forcément faire au cinéma ou même dans des chansons, faire attention aux paroles, ça peut vite créer des polémiques. Là, on peut tout montrer, donc c'est 2 bandes dessinées. Oui,
c'était une belle chronique, Mathieu.
Mais
vous n'êtes pas allé jusqu'à nous apporter ces bandes dessinées en studio pour notre invité Abdal Malik.
Je pourrais les ramener.
Ça aurait pu l'intéresser parce que je crois que les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles, ça fait partie de vos combats, Abdal Malik.
Ouais. Moi, j'ai. Il y a eu que des femmes autour de moi en fait. J'ai été élevé par ma mère seule. Elle nous a élevés. On était 7 et mes tantes et quasiment tous mes oncles. En fait, n'étaient pas là. En fait, quasiment tous. Donc, il y a toujours. Et ce qui fait que j'ai jamais. Vraiment, et je le dis sans flagornerie aucune, mais j'ai vu concrètement que les femmes étaient plus fortes que les hommes, concrètement en fait, puisque les hommes avaient abandonné concrètement d'une certaine manière, enfin de toutes les manières j'ai envie de dire. Donc ce qui fait que pour moi c'est hyper important et d'autant plus aujourd'hui. Et pourquoi pour moi l'art, la culture, enfin c'est important, parce que nous autres artistes on travaille directement sur les imaginaires, et pour moi il y a quand même une culture de l'homme qui rabaisse la femme. C'est culturel. Et c'est même des réflexes, des choses qui ne sont pas pensées. Mmh, ou,
c'est inconscient.
C'est inconscient. Et donc, nous autres, le fait de parler de ça, le fait d'inviter à réfléchir sur ça, eh ben, ça nous fait aussi prendre conscience, chacun de nous, là où on se trouve, en tant qu'homme, sur notre rapport au monde et notre rapport aux femmes particulièrement. Donc, c'est en ce sens-là où je pense que nous autres artistes, on est hyper importants. Voilà.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Alors, il était invité il y a une semaine chez Mathieu Noël pour venir nous parler du film de Nicolas Vanier, Donne-moi des ailes. C'est Jean-Paul Rouve, un film qui nous entraîne dans une aventure familiale de la Camargue en Scandinavie.
Il y a un double effet qui se coule sur ce film. Non seulement l'histoire est dingue, mais en plus elle est vraie. En tout cas, elle est inspirée d'une histoire vraie.
Et exactement. La vie de Christian Moulec. Voilà,
qui que est vous connaissiez ou que vous avez découvert au scénario?
Non, que j'ai découvert grâce à Nicolas Vanier. J'avais vu ses vidéos, on le voit voler avec des oies en ULM et tout, les trucs de fou. Puis après, je l'ai rencontré, j'ai vu le mec que c'était. Enfin, c'était assez étonnant, oui.
Ça vous a convaincu de faire le film?
Non, c'est Nicolas Vanier. C'est la rencontre avec Nicolas Vanier qui m'a convaincu. Quand on rencontre un mec comme ça, on a envie de partir en aventure avec lui, de faire l'amour avec lui, enfin d'avoir un...
tout ce que vous avez fait par la suite.
Tout ce qu'on a fait par la suite, oui.
Évidemment. Ce film surprenant, d'autant plus surprenant que c'est une histoire vraie, on le disait. Ça s'appelle Donne-moi des ailes, ça sort mercredi prochain.
Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, bah il faut que je leur monte la route.
Thomas !
Il est où mon fils ?
Vous restez bien avec moi, hein, les filles.
Il va traverser la mer du Nord.
Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague.
Non, mais ça va aller.
Non, mais quoi, ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian?
C'est donc l'histoire complètement dingue d'un scientifique qui étudie les oies sauvages et de son fils, un ado obnubilé par les jeux vidéo, qui vont se rapprocher, et c'est pas gagné au début, autour d'un projet complètement fou.
Exactement. L'histoire vraie, c'est pas la rencontre avec son fils, tout ça. Ça, c'est inventé,
ça,
c'est la
fiction.
C'est ce qu'a fait Nicolas. L'histoire vraie, c'est l'histoire de Christian Moulec, du personnage que j'interprète, qui se rend compte qu'il y a une race d'oies qui est en voie de disparition, d'extinction, parce qu'elles suivent un chemin migratoire trop dangereux pour elles. C'est-à-dire les chasseurs, la pollution visuelle, enfin, il y a de plus en plus de villes qui s'étendent, donc elles se perdent, elles meurent. Bref, depuis des millénaires, elles prennent un chemin, et là, ce chemin fait qu'elles disparaissent. Et lui, il a une idée folle, c'est de dire, moi, avec un ULM, je vais les élever, puis je vais les emmener sur un autre chemin migratoire moins dangereux, et on verra si ça marche.
Il faut expliquer comment on se fait accepter des oies. En fait, les oies, apparemment, reconnaissent la première personne qu'elles voient dans la vie comme leur père ou leur
mère.
C'est
ça, ça s'appelle l'imprégnation.
Donc ça, c'est vrai, hein ?
Ça, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça, c'est Christian Moulec. Christian a inventé un système où tout le monde est habillé avec une sorte, on va dire, de robe de bure.
Et alors, pourquoi cette robe de bure ?
Alors, pourquoi ? Pour qu'il fallait que l'animal, la première chose qu'il voit, ne ressemble pas à un homme.
D'accord.
Pour pas qu'il puisse, aller voir n'importe quel homme comme un chasseur, il n'aurait pas peur du chasseur. Donc là, c'est une forme qui n'existe pas, une robe de bure avec une sorte de casquette. Et sur le tournage, d'ailleurs, on était tous comme ça, près des oies, pour qu'elles nous suivent.
Ces oies, elles vous suivent vraiment? Il n'y a pas de trucage?
Non, il n'y a pas de trucage.
Ah, c'est
non,
ça
non.
Qui est incroyable.
Elles ont été élevées, il y avait quelqu'un qui s'occupait des oies, évidemment, hein, bien sûr. Et puis après, moi, régulièrement sur le tournage, j'allais voir les oies et puis les entraîner pour qu'elles me suivent. On a une sorte de pouette-pouette, là, pour qu'elles suivent.
On le voit dans le film, ouais.
Les bruits, on faisait caca-caca-caca, ils font toujours le même bruit. Ouais, c'est fou, hein.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Justement, Jean-Paul, ce film, sans vouloir tirer la couverture à vous, ni réclamer les droits d'auteur, c'est une équipée sauvage, un petit peu.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Oui. J'ai lu dans les yeux de Jean-Paul qu'il avait oublié que le titre de l'émission c'était l'équipée sauvage.
J'ai pensé, quand vous avez annoncé le titre tout à l'heure, j'ai dit tiens, c'est fou, c'est le même. Ouais, c'est le même titre, ça pourrait être le même titre, oui.
Alors, Jean-Paul Rouve, sauver des piafs, c'est bien joli, c'est dans le film, mais le moment est venu de retrousser...
Sauver Edith Piaf, c'est mieux.
Ça serait mieux. Hélas, on n'a pas réussi, on est arrivé trop tard. C'est le moment de retrousser vos manches, c'est l'heure du quiz face à Eva Rock. Un moment que nos invités redoutent. Ils n'ont pas envie d'être pris en défaut, c'est normal, sauf que l'alternative est simple, hein. Soit vous restez les bras croisés, soit vous passez à l'offensive. Alors vous choisissez quoi ?
Offensive.
Oui.
Je choisis la solution offensive.
Oui, 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 bien. Alors c'est très bien, Jean-Paul. Alors, en hommage à votre film Donnez-moi des ailes, nous avons décidé tout naturellement de faire un quiz.
Piaf.
Volatile. Effectivement, c'est un vrai faux sur les oiseaux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Jean-Paul Rouve. Pour séduire la femelle, le minestrone argenté. Là, on va voir si vous avez bossé un peu sur le film,
sûr,
si vous êtes
sûr,
juste venu faire
bien,
le guignol.
Bien.
Le minestrone argenté que l'on trouve en Australie est capable d'aller jusqu'à faire le grand écart. Vrai ou faux?
Mais le minestrone argenté a plumage long ou a plumage court?
Plumage court.
A plumage
court, c'est oui. Évident.
Vrai.
C'est faux. C'était un piège. Par contre, le mannequin à cuisse jaune, pour la parade nuptiale, fait le moonwalk. Il marche en reculant. Oui. Eh oui. Ça plaît beaucoup à la femelle. Eva Rock, les pingouins et les manchots sont des oiseaux marins. Un seul des deux vole. Lequel?
Ah, je sais jamais.
c'est le problème. C'est
les manchots qui volent.
Erreur. Les pingouins volent.
Oh, c'est
les
pas
manchots, trouve... ils sont manchots.
Faites l'imitation du manchot à retrouver sur europe1.fr mais... par Mathieu Charrier.
Quand on est manchot, on peut...
Oui, mais ils ont des petites ailes quand même, les manchots.
C'est un moyen mémotechnique comme un autre.
Oui, bah, ça y est, j'ai compris.
Les pingouins volent, on les retrouve dans l'hémisphère nord. Les manchots, non, ils sont dans l'hémisphère sud. En anglais, manchot se dit penguin. Rien que pour ça, vive le Brexit. Attention, trois propositions.
C'est vraiment la partie la plus intéressante de l'émission.
Ah, c'est passionnant, je vous sens d'ailleurs, je vous sens captivé. Vous répondez ensemble, je vous fais écouter des chants d'oiseaux. Certains sont vrais, certains sont imités par Johnny Rass et Jean Boucaud, chanteurs d'oiseaux professionnels. Et c'est un métier. Vous me dites à chaque fois si ce sont de vrais ou de faux oiseaux. Premier extrait.
Ah, moi je dirais vrai.
Ouais, moi aussi, je dirais vrai comme toi.
Bonne réponse, c'est effectivement la mésange bleue. Deuxième extrait.
Non, ça me semble faux là.
C'est
oh
faux.
Les pauvres Johnny Boucaud. C'est leur métier en plus.
Oui.
C'est, vous avez raison, c'est faux, c'était Johnny et Jean Boucaud. Un troisième extrait pour voir s'ils sont bons ou nuls.
Bah non, vous venez de donner la réponse, c'est eux. C'est,
mais
donc, c'est
j'ai pas donné de réponse. C'est soit c'est les imitateurs d'oiseaux, soit
c'est des imitateurs. Ça.
Alors encore
moi, moi je dis que c'est vrai.
Vous dites que
moi,
c'est vrai.
Ça
c'est gentil pour eux, mais c'est faux. C'était Johnny et Jean Boucaud.
Ouais.
Comme quoi, ce quiz nous aura permis de voir que le métier d'imitateur d'oiseaux est un métier finalement un peu con, on peut le dire,
ouais.
Puisque ça ne marche pas. Vous avez reconnu tous les sons. Donc c'est un métier qui est voué probablement à disparaître. Qui remporte le quiz? C'est Eva qui remporte le quiz.
Ah merci Jean-Paul. Ben quoi?
On vérifiera au ralenti. Je demanderai le ralenti pour voir s'il n'y a pas eu un trucage.
Ouais.
Bravo Eva.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage, c'est de la bonne humeur, de la convivialité, oui, mais aussi de l'info. Et la compétition entre nos journalistes continue. Mathieu Noël, Eva Rock accueille à présent le monsieur innovation d'Europe 1, Anis Mbida, qui va devoir convaincre le comédien Vincent Lacoste, vous vous souvenez, révélé dans Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. Il est à l'affiche en ce moment du nouveau film de Christophe Honoré, Chambre 212.
Un type d'autant plus redoutable qu'il arrive toujours à tisser une forme de complicité avec l'invité, comme avec Patrick Timsit lundi dernier.
C'est sérieux la saucisse, attention.
Surtout quand elle est bonne et qu'elle est bien grasse et qu'elle gicle.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Timsit? Mais je vais vous dire, je ne veux pas le savoir, Anissé, ça me fait peur.
On s'aime bien,
vous aimez bien.
Oui,
vous aimez
super
trop,
super sympa comme gars,
ouais, faites attention Vincent, faites attention. Anissé, vous êtes actuellement en tête du championnat européen et pour vous y maintenir, vous avez décidé de nous révéler aujourd'hui le moyen de transport du futur.
Oui, parce que un petit peu de contexte. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% du transport de marchandises est effectué avec des cargos. Vous savez, ces fameuses villes volantes là, hein, qui polluent énormément. Ça pollue énormément parce qu'elles fonctionnent au fuel lourd. Fuel lourd, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein, c'est encore pire que le diesel. Hein, c'est très proche du pétrole brut.
Il y a quelque chose de pire que le diesel.
Ah oui, c'est carrément bourré de soufre, bourré de dioxyde d'azote. Et c'est pour ça que ces gros paquebots et ces gros cargos sont interdits dans les villes côtières aujourd'hui. Hein, vous savez, on a eu des problèmes à Marseille, hein, même là, c'était des bateaux de plaisance, hein, des bateaux de croisière qui...
Ils sont aussi au fuel, comme vous dites, au
fuel lourd. Les gros bateaux fonctionnent tous avec ce fameux fuel lourd. Donc on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas chercher un petit peu dans le passé et récupérer une technologie qui fonctionnait très très bien, c'est celle du dirigeable, tout simplement.
Ça fonctionnait très bien.
Mais oui, ça fonctionnait
très bien. Il y a certains passagers qui en sont parvenus quand même. Hein, vous y allez en premier, Nice, vous allez le tester pour nous. Hein.
Mais parce que ça consomme beaucoup moins, c'est plus léger que l'air, donc il n'y a pas besoin d'énergie pour le soulever, et ça utilise les courants, donc ça se déplace tranquillement.
Oui, mais
le
moindre petit corbeau qui arrive.
Bah ouais, c'est ça, un corbeau et paf.
Bien sûr, tout le monde parle de cet accident du Zeppelin en 1937.
Et oui,
il y a quand même un paquet d'années. Hein. Depuis, la technologie a énormément évolué. D'abord, on n'utilise plus de l'hydrogène dans le ballon. On n'utilise plus de l'hydrogène. Maintenant, on utilise de l'hélium, celui qu'on met dans les ballons de baudruche.
Ah, donc un accident comme celui-ci ne pourrait plus avoir lieu.
Non, parce que ça ne brûle pas. L'hélium, vous savez, c'est celui qu'on utilise là, pour rigoler, là, comme dans les ballons de baudruche.
Ah, ça doit être un
pas les soirées avec vous.
C'est me dites pas que vous l'avez jamais fait.
Vous devriez inviter Vincent à votre anniversaire, à mon avis. On va répondre présent. Ouais.
Ah, valait un petit peu délire. Oh, voilà, petit bois comme ça. On l'a tous essayé, arrêtez. En tout cas, mais ça ne brûle pas, donc ça n'explose pas. Et puis, on a des carlingues et des nouveaux matériaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus résistants. Donc, on n'a pas ce problème-là. Et en plus, l'avantage, c'est que ça sera beaucoup plus rapide que les bateaux. Vous savez, un bateau aujourd'hui met
12 nœuds.
Deux mois pour faire le tour du monde.
Ouais. Et ah oui, avec, je vous donne la vitesse du bateau.
Avec un dirigeable, on prendrait 2 semaines. Donc, nos denrées alimentaires, vous savez, les vêtements, les téléphones portables qui sont dans les cargos, bah, ça mettrait 2 semaines à faire le tour du monde, alors qu'aujourd'hui, ils mettent 2 mois.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer un retour du transport de passagers ?
Alors, justement, c'est, on y pense énormément, mais comme beaucoup de gens comme vous ont toujours cette image du Zeppelin à Hindenburg dans la tête, on va le réserver au départ au transport de marchandises, notamment pour des choses, quand on veut par exemple transporter une éolienne par exemple, ou un pylône sur une falaise reculée.
Ouais, moi ça m'arrive souvent, là, l'autre jour j'ai une éolienne à transporter.
Aujourd'hui on n'a pas de solution. Eh bien, sauf un hélicoptère, mais l'hélicoptère, ça fait du bruit, ça consomme énormément. Avec des ballons à hydrogène, ça serait beaucoup plus simple. L'autre intérêt aussi du dirigeable, c'est pour remplacer les satellites. On pourrait mettre des ballons en sustentation au-dessus des zones qui sont complètement non couvertes et diriger. Donc, à la fois pour remplacer les bateaux, les frettes, remplacer les... Il fait des grimaces.
Je vous fais une grimace. C'est juste son visage, Anissé. Je suis désolé.
Remplacer les satellites et remplacer les avions. Et quand tout le monde sera rassuré par cette nouvelle technologie, eh ben on fera des croisières moins polluantes que ces fameux énormes paquebots qui existent aujourd'hui.
Et à mon avis, comme produit d'appel de lancement pour une croisière, c'est une croisière avec Anissé Mbida. Tu sais, comme les croisières avec Franck Ferrand. Là, une croisière avec Anissé Mbida, à mon avis, ça pourrait bien remplir le dirigeable.
C'est une croisière dans les airs, surtout, parce que c'est pas du tout une croisière.
Mais aujourd'hui les croisières. Voilà. Non mais les c'est croisières. Avion, bah, si on appelle ça des croisières, quand vous allez aujourd'hui dans une ville visiter une ville, on s'arrêtait sur le port et c'était pas très intéressant. Ben là on pourrait être au-dessus de la ville, sur la lagune de Venise.
Quand on sera au-dessus de Venise, comme ça ils auront les paquebots et les mecs au-dessus. Tu seras bien dans Venise, tu seras là devant ton prosecco, ma chérie. Est-ce que tu veux être ma femme? Le truc au-dessus, le truc en dessous. Tu sais plus où t'es. Merci Nissan Bida, c'était pas mal quand même.
D'abord c'est le fret. D'abord ça sera le fret.
D'abord le fret. Votre chronique sur les dirigeables du futur aura-t-elle séduit notre invité ou bien aura-t-elle fait comme le Hindenburg en 37? Notez la qualité des effets sonores d'Europe 1.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
C'est notre rendez-vous feel good de la semaine, du lundi au vendredi de 16h à 18h sur Europe 1. Mathieu Noël, pour orchestrer cette compétition entre les journalistes d'Europe 1 sous la houlette d'un invité qui joue un petit peu le rôle d'arbitre, c'est vrai, mais qui évoque aussi son actu, et puis Eva Rock est toujours là bien évidemment. Alors il était parmi nous cette semaine, Abdal Malik, de retour avec un premier roman, Méchante blessure chez Plomb, et avec une pièce de théâtre aussi qu'il met en scène à Paris au Théâtre du Châtelet, Les Justes de Camus.
Mesdames et messieurs, découvrez vite la question la plus intelligente de l'année. On vous arrête beaucoup dans la rue pour vous féliciter ou...
Ouais, ça m'arrive assez souvent. Mais après, dans la rue, vous savez, en général, on marche.
Ah bon ?
Abdal Malik est notre invité aujourd'hui. Je ne vous demande pas si on vous arrête dans la rue vu qu'on marche. Abdal Malik, vous êtes un des piliers du hip-hop français. Si vous pouviez monter dans la DeLorean de Retour vers le futur et aller parler au petit Régis, votre prénom à l'état civil dans la banlieue de Strasbourg, vous lui diriez quoi ?
Je lui dirais de ne pas avoir peur et que tout va bien se passer. Je lui dirais ça.
Eva ?
N'ayez pas peur, c'est les mots que vous avez prononcés aux Victoires de la Musique en 2008 à la fin de votre allocution. Ouais. C'était n'ayez pas peur de quoi et de qui ?
De tout.
De tout ?
Parce qu'on vit dans un monde quand même qui est basé sur la peur. La peur de tout, la peur du lendemain, la peur d'être soi véritablement. Toutes les formes de peur en fait. Et c'est, pour moi, c'est le frein absolu. C'est ce qui empêche d'abord d'être soi et puis c'est ce qui empêche aussi d'aller vers les autres et de pouvoir se mettre en lien. Et c'est vrai qu'on est dans une société quand même, dans un monde finalement qui magnifie la peur, qui se base sur la peur. Et ça, c'est horrible. Alors quand je dis n'ayez pas peur, voilà. Il faut dépasser toutes les peurs si on a envie véritablement de s'épanouir pleinement.
Alors Abdal Malik, votre nom est désormais connu de tous. Enfin, je crois. J'ai quand même tenu à vérifier ce qu'il évoquait aux Français. Enfin, en l'occurrence, les habitants du 15e arrondissement de Paris, dans un rayon de 300 mètres autour d'Europe 1. C'est les moyens Europe 1. Voici non pas un micro-trottoir, indigne de notre fougue créative, mais un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
Abdal Malik.
Ah, moi j'aime bien. Il y a des rappeurs où je change. Mais lui, je peux l'écouter.
C'est un rappeur, non ? C'est un gars du 9-3, lui. C'est de la Courneuve, je crois.
C'est du rap, mais en même temps, c'est un peu du slam, quand même. Et c'est assez poétique.
Le slam, c'est pas comme le... Comment dire ? C'est un sport, non ?
Je pense qu'un truc que j'ai vu à la télé, c'est à peu près comme le patinage artistique.
C'est un gentil garçon, des paroles propres. J'ai déjà écouté et j'aime bien.
Abdelmalik. C'est qui Ah oui, c'est un bon.
Il a du style.
Il sait parler et il prouve aux gens ce qu'il sait faire, tout ça, que c'est pas des racailles, des trucs. Il n'y a pas de cases en fait, alors qu'on nous met dans des cases. C'est un bon.
Du rap poétique qui tend vers le slam, ça j'imagine que ça vous va.
Et le patinage artistique.
Et le patinage artistique, ça. Effectivement, c'est la réflexion la plus fine de ce concentrat. Mais il y a aussi, j'entends aussi ça, un gentil garçon, des paroles propres. C'est un peu le revers de la médaille Abdelmalik. C'est-à-dire que dans un milieu, le rap plaît beaucoup aux jeunes, et c'est souvent celui qui parle le plus fort qui est le plus entendu. Vous parlez pas trop fort, Abdelmalik, vous êtes tout en finesse. Donc du coup, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour vous de vous dire que peut-être il y a certains jeunes que vous n'arrivez pas à toucher parce qu'ils écoutent plus les mecs qui sont sur des hummers avec des poufs?
Moi, mon idée, c'est pas de toucher plus. Mon idée, c'est d'être moi plus. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou d'être ce qu'ils voudraient que je sois. Je suis là pour être moi. Et c'est déjà un travail. C'est compliqué d'être vraiment soi tout le temps. Et de, voilà, donc ma démarche, c'est celle-là. C'est de cultiver la sincérité. Donc à partir de là, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, j'ai envie de dire tant pis, en fait. Donc voilà.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Alors Abdelmalik, c'est un passage obligé pour l'invité, qu'il fait toujours avec beaucoup d'enthousiasme.
C'est pathétique.
Sauf Gérarditi. Tous les jours, un quiz thématisé oppose l'invité à Eva Rock. Alors aujourd'hui, je voulais rendre hommage à la plume de tous les rappeurs de France et de Navarre. Le principe est simple, je vous donne des citations, vous me dites rappeur ou pas rappeur. Vous pensez que la citation vient d'un rappeur ou pas. D'accord. C'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Si c'est un rappeur, on écoutera la réponse en chanson. Eva Rock, si je vous dis, vous commencez, vous prenez la main, comme disait Julien Lepers. Vous prenez la main. Eva Rock, si je vous dis, quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. Vous me dites rappeur ou pas rappeur?
C'est moche ce que vous faites.
Ah, c'est très moche.
Ah,
ouais,
c'est très moche.
Ouais, rappeur?
Pas rappeur.
Pas rappeur?
Non. Quand même. Philosophe du 20e siècle, fin 20e siècle, début 21e. Jean-Claude Van Damme.
Oh, ouais. Non, il est plus rappeur que philosophe.
Ah non,
ça
veut dire
rappeur. Ça y est.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus rappeur que philosophe.
Ça ne veut rien dire, Eva.
Je pensais que c'était Jules qui avait écrit ça. Pardon.
Si je vous dis les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars, vous me dites rappeur ou pas rappeur? On vous sent dubitatif là-dessus. Hein.
Ben, franchement, ouais, dubitatif, c'est le cas de l'époque. Je sais pas, je dirais. Je dirais pas rappeur. Rappeur ?
Rappeur. Et pas n'importe lequel. On écoute.
Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars.
On salue MC Solar.
Ah,
ouais,
et oui.
Claude MC.
Et Baroque, si je vous dis, un ami est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant de trouver le bon. Vous me dites rappeur ou pas rappeur ?
Vas-y, redites-le pour voir si le flow.
Un ami, c'est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver le bon.
Je dirais rappeur.
Eh bien non, pas rappeur.
Ah non, c'est trop dur.
C'est
votre
Alfred
jeu.
De Musset.
C'est pas vrai.
Mais oui, comme je vous le dis, Eva, nous avons enquêté.
Il mangeait des melons.
Je ne sais pas s'il mangeait des melons.
Je crois qu'il faisait du rap. Alfred de Musset, il faisait du rap.
C'est franchement, la phrase, elle est géniale.
C'est pas mal.
Sincèrement.
Abdelmalik, si je vous dis, donne-moi mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite car c'est le reflet de ton échec. Vous me dites rappeur ou philosophe?
Waouh.
Ah, les deux.
Mais oui. Ouais. Mais sauf qu'il faut choisir. Ouais. C'est ça le truc.
Il faut choisir. Rappeur ou philosophe?
Vous pouvez répéter?
Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite car c'est le reflet de ton échec.
Bon, allez, je vais dire rappeur.
Ouais. Rappeur, vous avez raison. C'est la fouine.
Ouais. Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite. Car c'est le reflet de ton échec.
Yeah, je suis dans mon jacuzzi.
Ça pourrait être du Mathieu Charrier, ça, c'est quand il remporte la compétition de l'équipe sauvage.
Je prends bien.
Oui. Et Baroque, si je vous dis, si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie? Rappeur ou pas rappeur?
Pas rappeur.
Pas rappeur? Vous êtes sûr? Ouais, tant pis, rappeur.
Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie?
Oula, c'est très syncopé ça. C'était qui? C'était
Booba.
Vous êtes
un culte en Booba. Ah, oui, vous êtes un culte en Booba. Vous êtes plus Abdelmalik, je vous sens. Abdelmalik, si je vous dis, une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Rappeur ou pas rappeur?
Non, mais c'est pas la phase originale. La phase originale, c'est en Afrique, lorsqu'un vieil homme meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ouais. C'est ça l'original.
Il a dû la choper là, en fait.
Ouais, fatalement.
Et fatalement, il l'a adapté. C'est un rappeur. Eh oui, un rappeur, c'était.
Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Et comme d'habitude,
C'est le silence. C'était le rappeur Giorgio, la selle Saint-Cloud. Et donc, on vient d'apprendre d'où venait cette expression grâce à Abdel Malik. Et Varrock, si je vous dis, je suis à droite de la main gauche et je suis. Si j'arrive à... Moi, j'aurais pas pu faire rappeur en revanche.
Allez-y, ouais.
mon flow est extrêmement limité aujourd'hui. Hein. Je suis à droite de la main gauche et je suis gauche de la main droite. Rappeur ou pas rappeur ?
Pas rappeur.
Pas rappeur ? Ça se discute. Raymond DeVos.
Oui,
on va refaire ce quiz, ça ne va pas. Raymond DeVos, c'est un pionnier du rap. Abdel Malik, attention, cette question va vous départager. Si je vous dis, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Vous me dites rappeur ou pas rappeur ?
Oh non.
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
Elle est horrible, cette phrase.
Ouais. Bon, je dirais rappeur, allez, tiens.
Et non, c'est Pierre Desproges.
Ah oui, c'est ça.
Oui, oui.
Ah
c'était une autre époque.
Les rappeurs aussi.
C'est Abdel Malik qui remporte le quiz.
Ouais.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël et Eva Rock. Alors, l'humoriste Claudia Tagbo interprète le rôle de la voyante Odame dans la comédie musicale The Ghost. Le rôle joué par Whoopi Goldberg dans la version long métrage, et elle était l'invitée de Mathieu Noël cette semaine. Elle découvre maintenant le sujet d'Alain Sirou.
Bonjour Alain Sirou, qu'est-ce que vous reniflez comme ça, vieux ?
Le napalm, fils ! J'aime l'odeur du napalm au petit matin.
Bien ! Alain, vous êtes notre consultant scientifique et aujourd'hui, vous nous parlez de potes à vous, en somme, hein, qui ont une spécificité, ils ont remporté le Nobel.
Oui, je vais vous parler de chasseurs de fantômes. Ghost, c'est fantôme. Et les chasseurs de fantômes, bah, c'est au XXe siècle des astrophysiciens qui se posent une question absolument fondamentale. Le sommes-nous seuls dans l'univers ?
Ah, vous allez enfin me dire si les extraterrestres existent.
Alors, je vais vous dire comment on avance. Ah. Donc, la première chose que se sont dit ces astronomes, c'est est-ce qu'il existe d'autres planètes autour d'autres étoiles ? Et au XXe siècle, finalement, on n'en trouvait pas. Parce que c'est extrêmement compliqué à trouver et on ignorait même que ça pouvait exister. Et en 1995, on pensait qu'il n'y avait pas de planètes autour d'autres étoiles. Et quand on les cherchait, on se rendait compte que c'était absolument épouvantable à faire. C'est comme si vous essayiez de voir, du sommet de la Tour Eiffel, une luciole tourner autour d'un phare à Marseille. Vous voyez la difficulté.
Mais alors comment on a fait pour réussir ? C'est pour Claudia. Il suffit d'avoir 10 sur 10 aux deux yeux.
Et donc ces astronomes ont eu une idée absolument formidable. C'est l'idée que s'il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, alors elles doivent perturber la course de ces étoiles. Ah. C'est un peu comme un lanceur de marteau ou une lanceuse de marteau aux Jeux Olympiques qui commence à faire tourner son marteau. Puis vous ne voyez plus le marteau, mais vous voyez vraiment le corps de l'athlète qui bouge comme ça. Ils se sont dit, on va cibler certaines étoiles et si on les voit bouger un tout petit peu dans leur lumière, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose autour. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des planètes autour. Et donc, ils se sont mis à surveiller, avec des télescopes, les étoiles pour voir s'il y avait des mouvements dans ces étoiles sans idée préconçue. Et là, bingo ! En 1995, deux astronomes suisses, donc Michel Mayor et Didier Queloz, découvrent qu'autour d'une étoile qui est à 51 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire l'approche banlieue,
n'est-ce pas ?
dans la constellation de Pégase,
vite fait.
Voilà, découvrent que cette étoile, elle bouge lentement comme ça, elle se déplace. Et leur calcul montre un truc absolument incroyable, c'est qu'il doit exister une planète qui a à peu près 6 fois la masse de Jupiter, qui tourne autour, mais très très près, en 4 jours. Une chose qu'on n'avait absolument pas imaginée. Le pouvoir de l'imagination, encore une fois. Et là, ces astronomes font une publication, et c'est cette publication qui a été récompensée hier par le prix Nobel, parce que c'est un peu comme les cèpes dans la forêt. Vous savez, vous en trouvez un, il y en a partout.
Ah oui.
Et là, vous découvrez, vous savez que c'est un coin. Et vous savez, vous connaissez la méthode. Et donc, ça a été ça, c'est-à-dire que sur une idée folle, chercher les planètes dans l'univers. Ils ont trouvé une technique, incroyable. Aujourd'hui, on a plus de 4000 planètes observées comme ça. C'est-à-dire, on voit qu'il y en a partout. Et on sait aujourd'hui que les planètes sont un sous-produit de la formation des étoiles. Il y a des planètes autour de toutes les étoiles.
D'accord.
Et même si on a trouvé quelque chose de très bizarre pour la première fois, aujourd'hui, on est en train de découvrir des exotères. On est en train de découvrir des planètes qui ont la masse, la proximité à leur étoile qui permet ce qu'on appelle l'habitabilité. Et donc l'étape suivante, ça va être de savoir si quelque chose existe à la surface, si quelque chose respire. Est-ce qu'on va pouvoir, dans la lumière de l'étoile, avoir la signature, peut-être de l'ozone, du CO2, de quelque chose qui fait que on ne saura pas si c'est des forêts, si c'est des dinosaures qui pètent ou si c'est quelque chose qui est vivant et qui est là. Mais on aura, dans les années qui viennent, la certitude, en tout cas l'information que autour d'autres étoiles, sur d'autres planètes que la Terre, eh bien, peut-être que la vie existe. Et ça, c'est génial. On vivra ça dans, à mon avis, les années qui viennent. Et je dirais que la recherche de fantômes nécessite obligatoirement qu'on y croit et qu'on ait beaucoup d'imagination.
Ah, ça, surtout l'imagination, toujours l'imagination.
Alors, comme quoi on avance petit à petit hein, sur la présence.
Surtout comme quoi Alain Sirou nous fait toujours rêver à chaque fois. Ouais. Mais je vois un petit doigt qui se lève, qui se dresse. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarlé.
Il est prêt à tout
vous prêt à
tout
vous c'est une ordure, hein, vous allez voir. Oui.
Deux questions, une vache, une pas vache. La pas vache d'abord, parce que ça m'intéressait ce que vous racontiez.
Merci.
Les planètes qui tournent autour des autres soleils, on ne les voit que par déduction. On ne peut pas les voir de visu avec un télescope qui serait suffisamment puissant.
Alors, on commence à les voir et on commence surtout à les voir au moment où elles passent devant leur étoile. Ah, elles font une mini-éclipse qu'on appelle un transit, donc on les voit passer.
Alors, maintenant la question vache. Là, vous nous parlez du prix Nobel 2019. En 2018, trois personnes ont eu le prix Nobel, dont un Français, pour ses travaux sur les lasers, pour l'amplification par dérive de fréquence. Comment s'appelait ce Français ?
Alors, il s'appelait d'un nom tout à fait français.
Alors, comme vous êtes quand même le spécialiste scientifique et que c'est gênant, je vous donne la réponse.
Voilà Gérard Mourou. Voilà, Gérard Mourou. Mais c'est vrai, vous avez raison.
Vous avez été grillé là, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière?
Oui, oui, non, mais j'ai vous pas n'avez pas suivi.
Mais c'est pas un
non.
copain à lui. Moi, c'est voilà. tout simplement.
Il ne parle que de ses potes.
Il parle que de ses potes, on a dit.
Juste, voilà. toute petite chose, j'avais demandé à Michel Mayer si un jour il penserait avoir le Nobel. Il m'avait répondu avec un accent que vous pourrez imiter, Mathieu. Il m'a dit, non, c'est comme la mort, faut pas y penser.
Merci Alain Sirou. Claudia Tagbo, comment vous avez trouvé Alain?
Un petit mélange de Johnny Depp et David Pujadas.
Oui, oui, comme quoi Alain, il n'y a pas que vous qui avez des problèmes de lunettes.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1. L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et c'est tous les jours du lundi au vendredi. On vous réserve les meilleurs moments le week-end. Alors on va rester avec Mathieu Noël et Varrock et son invité, Claudia Tagbo. Et la compétition, bien sûr, va reprendre maintenant avec Axel de Tarlé.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un boom étonnant.
Le boom de la bière. De la bière qui cartonne au pays du vin. Alors,
c'est sacrilège.
J'ai quelques chiffres. Donc, la consommation de bière en France a augmenté 9% l'an dernier. Depuis 2013, c'est plus 20%. Donc, quelques chiffres. Nous avons bu l'an dernier plus de 2 milliards de litres de bière. Oh. Alors, en piscine olympique, ça fait, à votre avis, combien de piscines olympiques ?
Qu'est-ce que c'est que ces calculs ?
800 piscines olympiques.
Mais dis donc, vous avez bien bossé, Axel.
Oui. Et par français, j'ai aussi, nous avons bu l'an dernier, par français, 33 litres de bière. Alors,
non.
C'est wow.
Oui, mais si vous faites par jour, oui, il y a 365 jours d'un. Bon, enfin, bref.
Quand même.
Le vin, c'est plus. Le vin, c'est 42 litres de vin. Wow. Par, voilà.
Mais donc, ça après,
mais la bière monte. Alors là, il faut quand même que je donne un peu de fond à cette chronique, une fois que j'ai donné ces chiffres. Non, ce qui est intéressant sur le marché de la bière, c'est qu'on observe les mêmes phénomènes que ceux qu'on observe dans l'industrie agroalimentaire en général. C'est-à-dire qu'il y a deux forces très fortes. D'abord, il y a la demande de local. Vous savez, maintenant, on en a marre des grandes marques.
Les micro-brasseries, ça c'est... Exactement. Dès qu'on va dans un endroit, on a une bière qui vient d'une micro-brasserie.
Et je ne sais pas si vous êtes dans les supermarchés maintenant, les grandes marques, ouais. elles occupent une toute petite part du rayon. Il y a plein de brasseries de spécialité, de bières locales, etc. Et donc, le nombre de brasseries a explosé, plus 500 encore. On est passé de 1100 à 1600 brasseries. Et l'autre phénomène qui est très puissant dans l'agroalimentaire, c'est le bio, c'est le manger bien.
La bière bio ?
Ben non, alors pas tout à fait bio. Alors oui, bio, mais il y a aussi la bière sans alcool qui se développe beaucoup. Et oui, et donc
j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ça, la bière sans alcool. Plus, à ce moment-là, on prend un soft.
Eh bien si, l'intérêt, c'est qu'on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Alors ça, c'était l'un de mes petits cadeaux, et vous vous souvenez sûrement de cette publicité.
Tourtel, c'est tout le plaisir de la bière sans alcool.
Le Tourtel.
Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit.
Toute votre jeunesse, Axel, c'est à la Tourtelle.
Voilà. Je peux même vous faire une révélation. C'est qu'en fait, ces bières sans alcool, elles n'avaient pas le goût de la bière jusqu'à présent. Ils ont beaucoup travaillé, les industriels, là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez des bières sans alcool dont le goût ressemble énormément à une bière classique.
Allez jusqu'au bout. Citez vos sponsors. Visiblement, vous êtes en partenariat avec une marque.
Ma sœur qui était enceinte, buvait de la bière sans alcool pour pouvoir nous accompagner à l'apéro.
C'est bien pour l'allaitement, il paraît.
Et en plus, c'est bien pour l'allaitement. Exactement, Claudia. Non, mais c'est vrai en plus.
Et alors, justement, vous terminez merveilleusement ma chronique parce que j'ai décidé, moi, pour gagner des points, de m'attirer les faveurs de l'invité en faisant un peu de corruption. Et donc, je vous ai amené une bière sans alcool. Et elle est fraîche. Alors, je peux soit vous l'offrir, chère Claudia,
oui,
ou soit vous l'ouvrir.
Non, je vais la boire plus tard.
Oui,
plus tard.
Elle est fraîche, en tout cas.
Elle est très fraîche.
Axel de Tarlé, vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment, mais particulièrement maintenant. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Alain Sirou.
Oui, ça m'a inspiré une question en vous écoutant. Pourquoi parle-t-on de mise en bière quand quelqu'un termine sa vie?
Est-ce que parce qu'il en a trop bu, il ne connaissait pas encore la bière sans alcool.
Eh bien, pas du tout. La bière signifie autrefois une litière sur laquelle était couché le mort au moment où l'on... Voilà, c'était pour plomber un peu votre enthousiasme et vous montrer que ça se termine toujours de la même façon.
Ça se termine mal.
Ouais. Il vous a bien calmé, Axel.
Ah, ouais.
Claudia Tagbo, vous avez mis la bière qu'Axel vient de vous offrir à côté de vous. Est-ce que vous comptez la boire à un moment? Vous faites partie de ces Français qui se sont convertis à la bière?
Ah non, je bois pas d'alcool. Donc là, c'est sans alcool.
Sans alcool,
voilà.
Claudia.
C'est
sans
pour
alcool.
Ça que je vais l'emmener gentiment à la maison. Et puis, je vais voir, parce que je suis sûre que moi, ça va faire l'effet inverse sur moi. Je vais quand même... parce que je bois pas du tout, en fait.
Mais je pense
et là,
que...
elle m'a dit qu'il y avait le goût vraiment de la bière.
Vous avez jamais bu de bière?
Non, je bois pas.
Ah bah,
tout
alors,
quoi.
Il faudra faire l'expérience.
Ou alors, quand je veux vraiment que je suis au ça même, que je suis waouh, je bois à Monaco. Mais un truc de bébé, hein. Je dis plus de grenadine que de bière, voilà.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Il a le goût pour l'aventure, l'explorateur Jean-Louis Etienne, qui publie aux Arbres citoyens aux éditions Paulsen. Il compte aussi partir en Antarctique pour visiter un territoire encore méconnu, l'océan Austral. Et il était l'invité de Mathieu Noël cette semaine.
L'explorateur le plus célèbre de France, Jean-Louis Etienne, nous faisait écouter le bêtisier de sa dernière expédition au pôle Nord quand il était bloqué sur la banquise. Que de souvenirs, Jean-Louis. On plaisante, mais c'est quoi, Jean-Louis, le pire et inversement le plus drôle des souvenirs que vous ayez de vos expéditions? Il a dû se passer des trucs dingues.
Le pire, c'est quand le danger vous menace, quoi. Hein.
Ça, vous l'avez vraiment expérimenté?
Ah oui, oui. Deux avalanches en Himalaya, très proches quand même. Et puis, je suis passé, j'ai failli passer à l'eau en allant au pôle Nord. C'est-à-dire que la glace s'est cassée sous mes pas. Et là, on sait très bien que si vous m'étiez enfoncé davantage jusqu'à la taille, je ne pouvais pas remonter. Et donc, je m'étais préparé à ça. Si à ce cas, il faut se coucher. C'est-à-dire limiter la pression, et puis j'ai rampé pour m'en sortir. Voilà, ça, c'est un mauvais souvenir.
Effectivement.
Et le plus drôle, le plus insolite, en tout cas
C'est à la base, quand on a traversé le Groenland, pour s'entraîner avant de traverser l'Antarctique, on était 6. Il y avait un Russe qui était soviétique. Un Américain, un Japonais, un Anglais et moi. Et on arrive à ce qu'on appelle la Dooline, Distress Early Warning. Une base américaine au milieu du... C'est un dôme, et de loin, on regarde ça, on dit, qu'est-ce que c'est?
Une soucoupe volante.
Une soucoupe volante, quelque chose. Non, c'est une base secrète américaine qui est au milieu du Groenland, et ils ont des radars pour détecter un missile qui va arriver, éventuellement, de l'Union soviétique, vous voyez? Et donc, ces gars-là, ils sont là, c'est des anciens du Vietnam, ils ont bouffé de l'anti-russe pendant longtemps. Et tout d'un coup, nous, on est montés, on arrive avec nos chiens tranquillement, et on est montés en haut de la base, il y avait une quarantaine de mètres. On frappe à la porte, des gars qui attendaient un missile en face, ils voient arriver des mecs en silence avec des chiens. Et donc, l'Américain présente, français Jean-Louis Etienne, et puis ils disent Victor Boyarski, firme USSR, de l'Union soviétique. Et là, le mec, oh!
Il se fige.
Il se fige et il dit « I have to call Washington ». Il doit demander l'autorisation et qui a été refusée, donc on n'est pas monté dans la base. Mais pour terminer d'une manière intéressante, c'est que les Américains sont descendus avec des bouteilles, du whisky, etc.
Ah bon,
et on a fait une soirée géniale. Ils touchaient le Russe, ils touchaient le Soviétique, si vous voulez. Ils ont échangé les t-shirts. C'était extraordinaire.
Une bien belle anecdote. Alors Jean-Louis, vous avez connu et surmonté bien des périls. Le froid, la solitude, la nuit polaire, les ours. Mais ce que vous allez vivre maintenant peut vous traumatiser à jamais. Un quiz contre Eva Rock. Alors, en référence directe à votre livre « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen, nous avons décidé de faire un quiz arbre.
Ah bah tiens,
hein, l'un comme l'autre, tentez de ne pas vous planter.
C'est pas moi.
C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. Jean-Louis Etienne, attention. Les palmiers sont plus dangereux que les requins. Vrai ou faux?
Oui.
Vrai. On compte tous les ans plus de morts à cause de la chute des noix de coco, que de personnes tuées par les requins. En moyenne, les requins représentent 10 à 15 victimes par an. 150 pour les noix de coco, 500 pour les éléphants, 5000 pour les scorpions, 10 000 pour les serpents. Vous nous faites le serpent, Nicolas Carreau?
Pire que le serpent. Qui fait le plus de morts dans le monde?
Je ne sais pas.
Le moustique.
Ah oui, le moustique, bien sûr, le palu. Ouais. Eva Rock, en 2010, 27 000 arbres ont été abattus pour répondre à la consommation mondiale de papier toilette. Vrai ou faux? 27 000 arbres.
J'en sais rien. Alors là, 20... Ah bah non, c'est faux, ça doit être beaucoup plus que ça, non?
Bah non. Bon, vous avez faux.
Oui, c'est faux. C'est
27 000
arbres.
La consommation de papier toilette augmente chaque année. Vous avez un très bon transit, Eva.
Ça dépend de l'épaisseur du papier.
Ça dépend.
Quand on a du Lotus super confort double épaisseur, voilà.
Le gars veut se faire envoyer du Lotus.
Ça, c'est du placement produit. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. L'arbre du Ténéré était un acacia solitaire situé en plein désert du Sahara. Il fallait faire 400 km pour revoir un autre arbre. Mais en 73, il est mort.
Que s'est-il passé ? 1. Il a été remplacé par une supérette. 2. Il a brûlé à cause des Maliens qui ont fait un barbecue. Ou 3, il a été renversé par un camionneur libyen bourré.
Mais
3.
Vous le racontez dans le livre, c'est 3. Ça, oui.
Oui, oui, c'est un camionneur qui l'a renversé, oui. Oui.
Note celui qui prépare le quiz, bien lire le bouquin de Jean-Louis Etienne. La 3, effectivement, bonne réponse collective, le chauffeur était manifestement ivre en 1939.
Mais vous imaginez un arbre au milieu du zéro, il n'y a rien, il va se cogner sur l'arbre.
Et l'arbre mort est maintenant dans un musée dans la capitale nigérienne. À la place, il y a une sculpture japonaise. Là, allez comprendre, on ne sait pas pourquoi. Jean-Louis Etienne, les olives noires et les olives vertes, j'espère que ce n'est pas dans votre livre, viennent du même arbre.
Du même arbre.
Ah, oh, mais vous le savez,
voilà. Mais oui, mais c'est trop facile pour Jean-Louis Etienne, oui, il connaît c'est, tout c'est... sur les arbres. Oui,
t'es niçoise, les olives, tu connais.
Mais oui, normalement. Effectivement, elles viennent du même arbre. Ils ne sont pas cueillis au même moment, entre septembre et novembre pour les vertes. En janvier pour les noirs, ces dernières sont plus riches en huile.
Même ça, je le savais.
Evaroc, le site, un site dont je ne connaissais pas l'existence avant ce quiz, Pornhub, milite pour les arbres, car pour 100 vidéos visionnées, ils plantent un arbre et ils ont lancé une marque de Kleenex en fibres recyclées. Vrai ou faux ?
Eh ben, je dirais vrai.
Vous diriez vrai ?
Ouais.
Eh bien, vous avez raison.
Ouais.
Mathieu Charrier est étonné, mais oui, est-ce du marketing ? En tout cas, le géant de l'industrie pornographique s'est également engagé pour la sauvegarde des animaux en diffusant de fausses sextapes avec des déguisements de pandas. C'est pas mal fait, mais on reconnaît quand même Evaroc sur les vidéos. Qui remporte le quiz ? C'est Jean-Louis Etienne qui remporte le quiz.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et Mathieu Noël revient juste après les infos de 17h avec sa complice Evaroc et les invités, en l'occurrence ses comédiens Jean-Paul Rouve et Vincent Lacoste, le slameur Abdelmalik, l'humoriste Claudia Tagbo ou encore le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous venez peut-être de nous rejoindre via l'appli Europe 1 en prenant la route ou même encore sur europe1.fr. Vous écoutez l'équipe est sauvage, les moments essentiels de la semaine en compagnie de Mathieu Noël, Evaroc, des journalistes aussi d'Europe 1 qui tentent chaque jour de captiver les invités de Mathieu Noël avec leurs meilleurs sujets. Alors durant cette prochaine heure, notre spécialiste écologie-environnement Anne Le Gall nous parlera de ses nouveaux œufs plus écolos qui rallongent la vie des poules et des poussins. Nous rejoindrons Stéphane Place dans le sud-ouest pour découvrir cette entreprise qui propose de nous livrer des bustes de Marianne à notre effigie. Ève Roger du service Société s'intéressera aux poupées Barbie unisex et puis les comédiens Vincent Lacoste et Claudia Tagbo nous parleront bien sûr de l'heure actuelle. Et on va commencer tout de suite avec le sujet d'Angèle Châtelier. Elle est face au comédien Vincent Lacoste.
Retenez votre souffle avant de lever les yeux vers elle, car vous ne verrez pas ça deux fois dans votre vie. Une chroniqueuse jeune sur Europe 1. Ah, c'est dingue, c'est fou. Je vous présente Angèle Châtelier, notre bonjour. Blogueuse musique. Sa jeunesse déconcerte nos invités, mais pas autant que ses tatouages. Jeudi, Pierre Arditi était à deux doigts d'appeler ses parents.
Bah oui, j'avais pas vu ses petits tatouages. Ah, c'est vachement bien. Ça s'en va quand même.
Malheureusement.
Surprise réciproque, Angèle. Oui. Face à vous, un invité jeune sur Europe 1. Vous avez choisi un nouveau cocktail improbable, classique et électro.
Oui, est-ce que vous aimez l'électro, vous, Vincent Lacoste ? Vous en écoutez un peu ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment la musique déjà, classique non plus ?
Non plus.
Voilà, non, mais... Le doublé.
Oui, voilà. Mais peut-être que les deux ensemble, vous allez aimer. Oui. Voilà, peut-être.
Bien tenté,
parce que
Angèle.
Mélanger ces deux genres, c'est le pari du compositeur Laurent Couson, puisque demain, il sera à la tête de son Electronic Symphonic Project. C'est un concert qui réunira à la scène musicale à Paris un orchestre symphonique, des DJ et des machinistes.
Mais c'est pas classique, ça. C'est classique.
Si, on entend les cordes derrière.
Ah oui, il y a des cordes, oui. Bon, ça, c'est presque jazzy, ça.
Alors, la fusion entre
ça,
musique...
Ça, avec un bonne pilule d'MD.
La fusion.
Je pense que je peux tuer quelqu'un pour qui utilise le mot jazzy. Hein.
C'est-à-dire
ça veut rien dire, jazzy. Hein.
Jazzy, ça veut rien dire.
Bah non.
Bah, le swing, c'est quoi ?
Bah, le swing, c'est du jazz, mais c'est
dès
pas
qu'il y a
jazzy.
Du swing, c'est jazzy. Bah, je dis ce que je veux, Eva. De toute façon, c'est moi qui dirige cette émission. Angèle.
La fusion entre musique classique et musique électro n'est pas nouvelle, mais elle est assez rare. La faute à quoi et à qui, à votre avis ? Aux puritains qui diraient que coupler les deux, c'est un sacrilège, un peu. La musique classique est pure, enfin, elle a longtemps été considérée comme ça. Elle est prestigieuse, alors tandis que la musique électro, oui, c'est plutôt associé à la fête, à l'ivresse, à la nuit, la MDMA, tout ça. Mais ces dernières années, les deux genres se sont accouplés. Même le géant maître de la musique électronique, pionnier de la techno, Jeff Mills l'a fait. Enfin, ça couplait oui, ça oui, on n'en doute pas, mais il a aussi collaboré avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier. C'était en 2005 et c'était pour célébrer le 20e anniversaire du Pont du Gard et ça donnait ça sur son tube The Bells.
va quand même avoir pris beaucoup, beaucoup de pilules pour suivre. Comme rythme. Et alors, Beethoven repris avec des Beats, clairement ça donne quoi ?
Bah, le groupe de disco Walter Murphy and the Big Apple avait essayé, mais quand c'est remixé par les rois du remix, le groupe de rock électronique Soulwax, ça donne ça.
Ça, c'est intéressant, je trouve ça. Ça, ouais. Ça pour le coup, ça me plaît ça, plus
alors,
que le truc d'avant.
Le titre, coûte, enfin, le titre dure à peu près 7 minutes, hein, donc il y a le temps de se faire son avis. Alors, si vous avez plutôt aimé.
Attention à la descente, amis auditeurs d'Europe 1. Surtout à l'heure du goûter, c'est violent. Hein. J'espère que vous avez déjà cherché les enfants à l'école.
Sinon... si vous avez plutôt aimé tout ce que vous avez écouté, oui ou non, hein, il y aura donc ce concert électronique symphonique Project demain à la scène musicale, mais aussi celui de l'artiste Waracles le 1er novembre au Zénith de Paris. Alors, lui, il a fait tout un album de musique électro avec un orchestre.
Mais moi, ça me fait plutôt penser à de la musique de film.
Aussi, c'est vrai. Ça, oui.
On se croirait
oui.
dans Pirates des Caraïbes ou Avengers. Le mélange des cordes et de choses électroniques, j'imagine, derrière.
Mais parce que
des instruments classiques. Des instruments
classiques.
Ce qu'on appelait le unplug à l'époque.
Et des ordinateurs, mais tout simplement. Merci, Angèle Châtelier. Et vous n'y couperez pas. Je vois l'œil brillant de cette enflure d'Anis Mbida. Voici la question vache de l'autre chroniqueur.
Oui, je sais qu'Angèle est née en 93, oui. Donc il y a plein de choses en musique qu'elle n'a pas encore vues.
Oui.
Est-ce qu'Angèle sait qu'ils sont les premiers à avoir utilisé du classique dans la musique populaire, à intégrer le classique dans leur style musical ?
Alors, dans quel style musical ?
Justement.
Mais
c'est la question.
Moi, je sais, je crois.
Ah, non, je sais pas.
Ah, Vincent Lacoste, né en 93 aussi.
C'est Rondo Veneziano, le... Non ?
Oui, mais... Dans quel style musical ?
On s'écoute un peu de Rondo.
Non, mais c'est le rap, évidemment. C'est le rap. C'est le rap. Ouais, les premiers à l'avoir fait. Il y a eu des albums entiers qui ont été faits justement sur le mélange.
Vous pouvez répéter la question ?
Quel est le premier style musical à avoir mélangé ?
La
musique classique.
C'est le rap, effectivement. Mais le rap, c'est bien, mais Rondo Veneziano, c'est mieux. Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et oui, c'est le rendez-vous qui mêle humour, bonne humeur et info. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h sur Europe 1 avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock et bien sûr tous les journalistes qui entrent en compétition. Alors on va retrouver maintenant la comédienne et humoriste Claudia Tagbo qui interprète le rôle de la voyante Odame dans la comédie musicale Ghost, actuellement au Théâtre Mogador à Paris. Le rôle joué par Whoopi Goldberg dans le film, c'est une nouvelle expérience pour elle.
Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure, Claudia ?
Alors, c'est une proposition du directeur de Mogador, monsieur ouais. Laurent Bentata, qui est venu me voir à la Gaîté. Je jouais là-bas mon spectacle qui et qui m'a dit notre prochain show, en tout cas, ce sera Ghost. Et je pensais à vous pour une Odame, mais il y a tout un parcours de casting à faire, d'audition.
Ah, il n'y a pas eu de passe-droit, quoi. Ça a été casting.
Ah, non, casting. Alors là, non. Et donc, voilà, parce que je ne suis pas la seule décisionnaire. Il y a les Anglais et tout. Et donc, du coup, j'ai dit, les castings, ça fait partie de mon métier. Donc,
vous avez joué le jeu.
J'ai joué le jeu, voilà.
Je m'imaginais très franchement, vu que vous êtes un peu quand même une star et la star de cette comédie musicale, que ça avait été construit autour de vous. Et non, c'était un processus de sélection à l'américaine, quoi.
À l'américaine. Sélection, chant, après l'acting, danse. Donc voilà, j'ai dû faire tout ce parcours-là.
Sur le chant, vous aviez déjà des notions. Vous aviez chanté, vous aviez été choriste à une époque, non ?
Oui, mais vite fait, quoi. Voilà. Là, on va dire que je sais que dans le parcours de l'audition, en fait, il y a un moment où, au tout début, ils ont dit on veut vous rencontrer. Déjà, on va commencer pour voir si vous avez l'oreille.
Et vous aviez l'oreille.
Ouais, mais ça fait bizarre de venir juste pour ça.
Juste
en fait.
Pour ça.
Je me suis déplacée de tout Paris pour venir. Ok, et là,
ça aurait pu s'arrêter
okay,
là.
Merci beaucoup. Bah, alors c'est bon, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps en fait. Juste pour. Voilà. Et tout ça, je viens de le faire en français, mais c'est en anglais.
Donc, et vous chantez très très bien.
Merci.
Avec
mais j'ai bossé.
Puissance
ouais.
de voix.
On n'a pas fini encore. Des fois, je suis un peu en dessous.
J'ai l'impression que ça vous agace un peu quand on vous dit en promo que vous reprenez le rôle de Whoopi Goldberg. Vous dites non, je reprends le rôle d'Odame.
D'Odame, parce que et en fait, c'est dans l'inconscient. Alors, j'ai presque envie de dire non, mais je reprends le rôle de celle qui a doublé Whoopi Goldberg en fait. parce que moi, je l'ai vu à chaque fois, le film, et là, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous accompagnaient là-dessus, ouais. de regarder les choses en version originale.
Ah, oui.
Donc, je l'ai vu en VO, et c'est pas du tout... On a le texte, on a tout ça, mais c'est pas du tout la même couleur. Et effectivement, on a tous cette voix de celle qui a doublé Whoopi. Donc, du coup, on se dit, on reprend le rôle. Ben non, je reprends le rôle d'Odame, parce que je me dis, il y aura plusieurs Odame. Mais Whoopi, elle est loin devant. Moi, je suis fascinée. En plus, c'est pas pour moi, c'est pas ce rôle-là qui me marque. Quand on parle de Whoopi, bon, je pense plus à la couleur pourpre. Donc, c'est pas...
Oui.
Voilà. Donc, du coup, Whoopi Goldberg, c'est un monument, quoi. Je suis loin.
Vous êtes à l'affiche de la comédie musicale inspirée du film sur lequel j'ai cru que j'allais pécho Sandra Elguir en février 90 dans la pénombre du Grand Rex.
Non, mais t'as vu ta gueule.
Résultat, 20 ans de psychanalyse. Ghost, le musical, au théâtre Mogador. Déjà, Claudia, est-ce que vous étiez, vous, fan du film?
Ouais.
Non,
moment de vérité. Pas fan, non, c'était pas mon.
Mais c'est pas
un film
que vous aviez vu genre plusieurs fois. Moi, je pense que je l'avais vu trois fois.
Non, vraiment, non, c'est pas ça. Terminator, tous ces trucs-là, mais pas.
Ah oui, c'est pas le même.
Voilà, j'étais un peu garçon.
C'était pas trop. Vous étiez pas en période fleur bleue, quoi, quand le film.
Non, parce que bon, pour être fleur bleue, il faut être fleur déjà.
Voilà. Et bleu.
Donc, bon, non. C'est-à-dire que quand on regarde Ghost et tout, on pense à son chéri. Moi, non, j'avais pas. Donc, du coup.
Pensez pas ça. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était le directeur du Théâtre Mogador qui avait pensé à vous à la base pour ce rôle. Est-ce que avant qu'on vienne vous chercher pour ça, vous ambitionniez de participer à une comédie musicale au stade de votre carrière à ce moment-là?
Ah oui, j'ai fait plein d'auditions à Mogador pour j'ai tenté Le Roi Lion. Ah, j'ai tenté Chicago.
Le Roi Lion, vous n'avez pas été prise?
Ah non, j'ai tenté. Ah non, mais moi je suis.
Mais vous étiez déjà
une frappadingue.
Ou c'était avant.
En fait, je suis même pas connue encore. Hein. Faut
Claudia,
se calmer.
Vous êtes relativement connue. Vous avez fait des spectacles.
Mes parents
vous voit
me connaissent, ma famille, et tout ça. Mais ça va, tout va bien. Je prends le métro, tout se passe bien. Bon, maintenant, tout va bien. Sur le marché, ça prend pas plus de temps pour acheter une pomme. Tout va bien.
Mais voilà. Donc, vous étiez hyper heureuse quand vous aviez été acceptée pour
Parce qu'en fait, je me dis, ce métier, c'est changer des couleurs. Un coup on est au théâtre, un coup on fait de l'humour, un coup on fait pleurer, voilà. Et donc je me disais, allez, un jour tu tenteras quand même la comédie musicale. Et j'ai tenté. Puis là, pour le coup, je savais même pas qu'il y avait Ghost qui allait se faire. Et donc on vient me chercher, je trouvais ça trop marrant.
Quand le Roi Lion va se remonter, à mon avis, ils vont vous appeler.
Non,
ça sera
je crois pas
sens.
Parce que non, il y a pas de parce que. Il y a beaucoup d'acting dans le rôle de Odame,
oui,
que le Roi Lion, ça chante.
Hein. Ça chante beaucoup.
Ah, ça chante
c'est
beaucoup.
Vrai que ça chante tout le
parce
temps.
Parce que moi, j'ai de la chance. Vraiment, les gens pensent que c'est des bandes son, mais l'orchestre est en dessous, hein, dans la fosse. Oui. Et des fois, je suis, comme on dit, t'es un peu en dessous de la note, mais t'inquiète, on te rattrape. Ok, les gars, y a pas de souci.
Alors, il y a une mise en scène et des effets visuels vraiment spectaculaires dans cette comédie musicale. En quelques secondes, on passe d'un appartement à Brooklyn à une scène dans le métro, à un comptoir de banque, à votre salon de voyance. Mm-hmm. C'est beau, mais c'est impressionnant aussi. Est-ce que les effets sont les mêmes dans le monde entier? Est-ce que cette version qu'on voit là, elle est unique pour Mogador ou c'est vraiment, il y a une charte et partout dans le monde, on voit le même spectacle?
Je peux dire que c'est pas unique partout dans le monde parce qu'on m'a envoyé une version espagnole il y a pas longtemps. Je fais un coucou à mes amis de l'équipe de Ghost. On a bien rigolé. Voilà. Donc, non, c'est pas unique. Chacun, il met un peu sa touche.
Donc, si vous voulez passer une belle soirée émouvante, allez voir
Théâtre
Ghost
Mogador.
Au Théâtre Mogador. Et si vous voulez vous poiler, allez au Théâtre El Mogadoro à Barcelone ou Madrid, où là, c'est plutôt le côté comique, la dimension comique du film qui ressort.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage, la suite avec Mathieu Noël et Varrock bien sûr. Et maintenant, le nouveau sujet d'un chroniqueur à découvrir. Face à lui, il y a l'explorateur Jean-Louis Etienne.
Face à vous, Jean-Louis, un fin connaisseur. Ouais, moi aussi, j'ai voyagé, vous savez. Hein. Un fin connaisseur des territoires polaires qui a étudié l'Arctique à travers des ouvrages de référence, notamment Bibi Fock et les gentils pingouins. D'où ces fulgurances en fin de dîner.
Les manchots, ils sont manchots.
Mathieu Charrier, vous êtes notre expert cinéma.
Je sens que celui-là, il va rester.
Oui, c'est hein. possible. Ouais. Surtout avec ce ton que vous avez employé pour le dire. Vous pérorez aux premières places du championnat européen. Ah. Avec quel sujet comptez-vous vous y maintenir?
Alors, je vais vous parler des faux billets qu'on utilise au cinéma et que certains ont une petite idée pour les recycler. Alors on les appelle ces billets déjà pour expliquer un peu le contexte, les movie money évidemment, effectivement c'est eux qu'on voit vous savez dans les mallettes lorsqu'il y a des gros trafics de drogue ou même pour acheter le pain dans un film parce que vous imaginez si on mettait des vrais billets sur les plateaux de tournage, quelque chose me dit qu'ils resteraient pas longtemps en service. Alors ils ont quand même ces movie money en principe quelques particularités pour qu'on puisse les distinguer. Alors déjà pour remplacer vous savez la petite signature de Mario Draghi en dessous du drapeau européen, là il y a une signature avec marqué Movie Money, comme, ce, comme son nom l'indique.
Oui, donc mais c'est,
petit.
C'est quand même pas des très bonnes imitations, non, c'est
non,
de
non.
loin.
Non, mais c'est tout est écrit ça en marche, petit. Vous savez, sous le signe euro, sous le sigle euro, normalement, s'il y avait marqué euro en grec, ben là, c'est rajouté, c'est accessoire traduit en grec. Mm. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Il y a une petite phrase sur le côté qui dit « Ce billet n'a pas cours légal, son utilisation est réservée au cinéma. » Sauf que tout ça, c'est vraiment écrit tout petit. En tout petit, j'ai regardé.
C'est-à-dire qu'à la boulangerie, vous avez fait l'essai, vous avez acheté trois baguettes sans problème.
Non,
quoi.
Parce que je peux finir en prison si je fais ça. Ah. Mais effectivement, il y en a certains, des petits malins, qui ont eu l'idée de se dire « Tiens, tiens, est-ce que je ne peux pas utiliser ce billet en dehors des plateaux de tournage ?» Parce que ces billets, il y a un petit flou juridique, ils sont considérés comme des objets de cinéma. Donc, ils ne sont pas interdits, puisque ce sont des objets
de fausse monnaie.
Non, c'est pas
c'est
de la
ça,
fausse
le flou juridique.
À proprement parler.
Donc, vous pouvez plaider le fait que c'est.
Surtout,
voilà,
vous pouvez les commander sur Internet. J'ai regardé sur un site très connu que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît. Vous pouvez acheter des billets de cinéma. Alors, par exemple, si vous voulez 15 billets de 50 euros, ça coûte 4,99 euros.
C'est un bon rapport sur les
billets. 1,99
euros. Je sens que l'exposition PolarPod va se faire plus vite que prévu, là. Hein. Il a trouvé.
Voilà, pour 5 euros, vous avez l'équivalent de 750 euros en billets de 50. Alors, pour les utiliser, il faut quand même plutôt dans le noir ou avoir, que vous disiez, une boulangerie. Non, mais une boulangère.
En boîte de nuit, c'est pas mal.
En boîte de nuit ou une boulangère qui a des lunettes à triple foyer qui ne voit pas très bien, ça peut passer. Mais c'est vrai quand même que, bah voilà, il y en a de plus
et
en plus.
Toucher,
en tout
et au toucher.
Oui. Au toucher, c'est du papier de cinéma, c'est-à-dire c'est du papier de.
Ah,
de
ouais. Ouais. Ah, c'est ouais. même pas bien travaillé.
Non,
au
mais
du...
vous savez, vous le froissez. D'accord. Une fois que c'est un peu froissé ouais. ou un peu abîmé dans une poche, encore une fois, je vous dis, si je vous en donne un là, que vous en pleine lumière. Vous risquez de voir la subtilité, mais sinon...
Mais c'est quand même un vrai phénomène.
Ah oui, parce que ça inquiète tellement les autorités qu'ils ont organisé un séminaire sur le sujet récemment à Marseille, avec une quinzaine de pays de la zone euro. Parce qu'en plus, c'est faux billets. Il faut savoir que, je vous le disais, vous n'avez pas le droit de les utiliser, mais vous avez le droit de les commander. C'est toute la subtilité. Il y a un bonhomme, il s'est fait pincer avec 1 million d'euros de billets de cinéma. Eh bien, les policiers l'ont arrêté, mais ils ont été obligés de le relâcher parce que tant que vous ne tentez pas de les utiliser frauduleusement, vous avez le droit de les avoir, ces faux billets. Oui. Donc, il y a tout un flou juridique aujourd'hui. Et les policiers, ils expliquent que les années passées, ils trouvaient comme ça une centaine de faux billets en France, de billets de cinéma. Là, depuis le début de l'année, en Europe, on en a déjà trouvé 20 000. Donc, c'est vous dire s'il y a des petits malins qui se sont dit... Il y a un business à se faire et c'est pour ça que les autorités alertent parce que vous pouvez aussi vous retrouver un jour avec votre commerçant qui vous rend la monnaie en faux billet parce que lui-même, on lui a donné un billet de cinéma. Donc, il faut faire un petit peu attention. Franchement, la subtilité, vous la voyez. En plus, en théorie, ils sont un petit peu plus grands. Ils doivent faire 25%. Mais bon, comme il y a un flou juridique et que tout ça au niveau européen n'est pas très harmonisé, et bien voilà.
Avec modération.
Mathieu Charry qui me regarde comme faisant de gros clins d'œil, insinuant que nous allons utiliser ces faux billets très prochainement.
Pour payer les chroniqueurs,
ça serait pas mal ça.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
17h25, la suite donc de l'équipée sauvage entre deux chroniques de nos journalistes compétiteurs. On prend le temps de revenir sur l'actu d'un invité. Et c'est au tour maintenant du comédien Vincent Lacoste. Il est venu cette semaine nous parler de son nouveau film dans lequel il joue. C'est Chambre 212, signé Christophe Honoré.
Moi, j'aimerais revenir sur votre carrière, parce qu'au-delà de votre talent, Vincent Lacoste, je pense qu'il explose à l'écran à chaque fois, il faut noter la qualité des choix des films. C'est-à-dire que, quand on regarde votre filmographie, première année, Thomas Lydie qui était excellent, Chambre 212, évidemment. Moi, j'avais aimé Lolo de Julie Delpy, parce que j'adore Julie Delpy. Hippocrate, Camille Redouble de Noémie Lvovsky, Plaire, aimer et courir vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à choisir, ou tout seul, comme un grand, vous, dès le départ, parce que vous avez commencé extrêmement jeune, les beaux gosses, vous aviez 15 ans, c'est ça?
Ouais, j'avais 15 ans, ouais. Donc enfin, j'ai eu 15 ans pour le tournage.
Et donc, à ce moment-là, derrière, il doit y avoir un tas de propositions qui arrivent. Comment on fait le tri et comment vous vous êtes débrouillé pour réussir cette carrière?
Bah, après, ça reflète mes goûts. Alors, je suis, en effet, je pense que je suis bien entouré. Je suis assez cinéphile. Mmh. J'ai un agent vraiment qui est merveilleux et qui me conseille extrêmement bien. Et non, et sinon, en fait, c'est assez subjectif parce qu'en fait, ça reflète mes goûts de... mes goûts de cinéma, quoi, les films que je choisis tout simplement.
Mais alors peut-être qu'il faut rappeler justement, votre premier rôle c'est Les Beaux Gosses, le film de Riyad Sattouf. À l'époque, vous voyez le casting pour le film à la cantine de votre collège, c'est ça?
Non, en fait c'est une dame qui est venue, qui est venue apporter des papiers pour passer un casting à tous les élèves de la cantine, enfin qui étaient à la cantine. Et moi j'y étais, enfin d'ailleurs je n'y ai pas été, c'est un ami à moi qui a été et qui a été rappelé. Et du coup, je me suis dit, ah bon, t'as été rappelé? Parce que moi, je pensais que c'était impossible d'être pris. Donc, J'ai redemandé le papier parce que je l'avais jeté. Ensuite, j'y ai été. Et là, j'ai été pris.
Devenir, être propulsé comme ça sous les feux de la rampe à 15 ans, c'est le pire des âges pour devenir célèbre. Comment vous avez fait pour rester? Parce que là, on vous rencontre ce matin, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes éminemment sympathique, charmant et simple. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui est complètement pété les plombs. Enfin, c'est incroyable parce que derrière les beaux gosses, il y a eu une carrière.
Tout le monde n'est pas comme vous.
Tout le monde n'est pas comme moi, c'est vrai. Alors, moi, je peux dire que j'aurais fait les beaux gosses à 15 ans. Je peux dire que je serais une sacrée enflure aujourd'hui. Et ça, c'est sûr. Et non, mais ça ne vous a pas déstabilisé à dans ce passage compliqué qui est l'adolescence?
Ça vous a aidé? Ça m'a un peu déstabilisé. Mais après, j'avais joué dans les beaux gosses, en fait. Donc, ça m'a rendu encore plus. Ça m'a intimidé un peu au départ parce que. J'avais quand même, j'étais au lycée, j'avais fait les beaux gosses, c'était quand même un peu, je passais mon temps à me branler dans des chaussettes et tout, donc j'étais pas foncièrement genre un mec méga classe non plus, considéré comme un type ultra classe. Alors que normalement quand on fait un film qu'on devient connu, c'est genre c'est la classe. Là, pas vraiment, quoi. J'ai plutôt dû remonter la pente ensuite, quoi.
C'est-à-dire que là où vous pensiez pouvoir choper des filles plus facilement en faisant acteur, ça a été compliqué, quoi.
Tu m'as vu au cinéma? Bah oui, je t'ai vu au cinéma.
Exactement, personne n'avait envie de sortir avec Hervé, quoi. Donc. C'était un peu le souci, mais après, non, après, vous savez, ouais, j'ai continué à aller en cours et en fait, j'ai eu une vie à peu près normale, hein, jusqu'en terminale.
Je pense que vous avez peut-être un entourage qui vous a aidé aussi à rester normal, non? Vos parents, ils vous ont jamais poussé à faire...
Mes parents, ils m'ont jamais poussé. Riyad Satouf, il a été très présent aussi. C'est un ami très cher et je pense qu'il m'a beaucoup accompagné aussi. Après,
Il vous a protégé.
Ça s'est fait aussi petit à petit parce que les beaux gosses, aujourd'hui, c'est très... Enfin, ça a bien marché quand c'est sorti, mais ça a fait 1 million d'entrées. Ça n'a pas non plus fait 5 millions d'entrées.
C'est devenu culte après.
Ouais, en tout cas, ça a monté ensuite, quoi. Donc, on m'a reconnu tout de suite, mais bon, c'était pas non plus le délire total. J'ai pas fait Titanic, quoi. Non, mais c'est vrai.
Vous dites dans Les Beaux Gosses, quand mon personnage se fait des branlettes, ou dans Amanda, quand je dois fondre en larmes, même si c'est deux choses plutôt différentes, au fond, pour un acteur, c'est pareil. Il vaut mieux éviter de trop réfléchir. Vous êtes un acteur à l'instinct.
Branlette, pleure, même combat.
Voilà, branlette, pleure, même combat, c'est beau ça.
C'est marrant, je me souviens jamais que je dis des trucs comme ça. Quoi.
Mais... Après, c'est peut-être la personne qui fait mes fiches qui dit n'importe quoi. C'est possible aussi, vous savez.
Non,
ici.
C'est moi qui dis n'importe quoi. Vous voyez.
Alors, en tout cas, Vincent Lacoste, vous fêtez cette année vos 10 ans de carrière.
Ouais.
On peut le dire.
À 26 ans.
À 26 ans, ouais. C'est pas mal. Mais qui est Vincent Lacoste?
Mais 11 ans même. Hein.
11 ans même.
J'ai commencé en 2008.
Ouais. 11 ans de carrière. Mais qui est vraiment Vincent Lacoste pour vous? On est allé promener notre micro dans la rue. C'est non pas un micro-trottoir, pas de ça ici, mais un micro trop trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
Vincent Lacoste.
Grand, brun, un peu bouclé, regard ténébreux.
C'est lui qui joue dans Première année?
Il est dans un film avec Chiara Mastroianni.
Est-ce que c'est lui qui joue dans Première année ou pas?
Chambre 200.
Il y a un film qui s'appelle Première année. Il est pas un peu tout frisé, tout frisoté? Eh ben, on voudrait savoir si c'est bien lui qui joue dans Première année. Mais vous avez pas l'air trop au courant.
Il a un petit côté Duris à l'époque, c'est-à-dire le mec un peu nonchalant.
Et puis il a une bouche un peu spéciale, rigolote. C'est un peu ça, non?
Je l'avais découvert, hein, comme tout le monde, dans les Beaux Gosses de Riyad Satouf.
Vincent Lacoste. C'est marrant que vous me parliez de lui. Je pense jamais à lui, mais c'est marrant.
Il joue dans Première année. C'est vrai, hein? Ah, mais il est super.
Je crois que je suis un peu trop vieille pour lui. Bon, après, Chiara Mastroianni a à peu près mon âge, mais...
Oui, j'avais même sa photo sur mon frigidaire, tellement il est sympathique.
Vincent Lacoste, ça vous fait quoi de savoir que des femmes, a priori en possession de leurs moyens, ont des photos de vous sur leur frigo? Ça, c'est vraiment original quand même. Hein.
Est-ce que vous avez joué dans Première année?
C'est vrai qu'elle m'avait sur son frigo, mais elle ne savait pas que j'avais joué dans Première année.
On vous arrête beaucoup dans la rue pour vous féliciter ou vous saluer?
Ouais, ça m'arrive assez souvent. Mais après, dans la rue, vous savez... Bah, en général, on marche ou donc.
Oui, les gens sont pas.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça reste quand même assez, assez acceptable. Ça m'arrive tous les jours. Oui, voilà, c'est ça.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël et sa comparse, Eva Rock. Des infos, des fous rires et une compétition qui continue maintenant avec Ève Roger, plutôt bien placée dans le classement. L'invité de Mathieu Noël, c'est Abdelmalik et il est très attentif.
Et c'est tremblante qu'Ève Roger s'approche à présent du micro, car elle le sait, la compétition est terrible, d'autant qu'outre les tentatives de déstabilisation parfois odieuses de ses collègues...
Est-ce bien une femme ?
Elle doit aussi composer avec l'affreux Jojo qui présente cette émission et qui n'a aucun respect pour les chroniques, qu'il n'hésite pas à ponctuer de vannes désolantes.
Dans une autre vie, j'avais un patron, il était complètement colérique et tyrannique.
On embrasse Jean-Pierre Elkabbach.
Je suis allée voir un hypnothérapeute qui m'a conseillé quelque chose qui marchait très bien.
Changer de radio.
Ma pauvre Ève Roger. Je ne sais pas qui est le con qui présente cette émission, mais alors Ève, prenez une bonne inspiration et allez-y. Vous nous parlez de la poupée Barbie.
Je vous parle d'une poupée d'un nouveau genre, c'est-à-dire sans genre, ni fille ni garçon, créée par le même fabricant que la poupée Barbie, donc l'américain Mattel, qui a aussi créé la femme la plus stéréotypée du monde, hein, puisque vous connaissez ses mensurations.
Ah, je ne les connais pas par cœur.
Inhumaine. Hein. Ah gros seins, oui. Jambes infinies, blonde platine. Alors, Barbie a 60 ans, donc c'est vrai qu'elle s'est un peu émancipée. Elle est devenue astronaute, chirurgienne, même présidente. Il y a 3 ans, elle est même devenue un peu plus humaine, parce qu'elle est devenue un peu plus petite, un peu plus ronde, et parfois même un peu plus grande. Mais là, ce sont ses cousines. C'est des poupées sans genre, et ça, c'est vraiment une révolution.
Alors, à quoi ressemble-t-il ?
Alors, elles ne sont pas en vente en France, je n'ai pas pu les acheter, mais j'ai prévu des photos, je reconnais, ce n'est pas très radiophonique. En fait, c'est des poupées qui sont alternativement filles ou garçons en fonction des accessoires qu'on met.
Ah, c'est-à-dire, ici, c'est, malin,
c'est perruque ou pas perruque, c'est chapeau ou pas chapeau.
Vous nous suivez sur europe1.fr en vidéo, évidemment.
Alors, ces figurines ne sont pas des adultes, contrairement à la Barbie, ce sont des enfants qui ont eu 8-10 ans, parce que si elles étaient adultes, elles auraient des caractères sexués. Elles auraient des abdos comme vous, Mademoiselle.
Ouais,
elles auraient des gros seins comme Barbie.
Comme oui. Barbie, voilà. Oui, voilà. Bien
vous avez failli déraper. Vous avez failli déraper.
Donc, vous voyez, chaque figurine peut donc avoir les cheveux courts ou les cheveux longs alternativement. C'est les enfants qui décident.
Ça, c'est bien. Et ça sert à quoi des poupées sans genre ?
Alors, déjà, ça sert à déconstruire les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on peut être une fille sans avoir les cheveux longs, sans être mince et sans forcément avoir une jupe. Et on peut, pareil, être un garçon avec des cheveux longs, etc. Mais c'est surtout que Mattel s'adresse à ce qu'ils appellent aux États-Unis les gender fluides. Alors moi, je ne connaissais pas. Alors le gender fluide, en fait, c'est quelqu'un qui se sent ni fille ni garçon, ou alors alternativement fille ou garçon. Donc aux États-Unis, c'est assez développé. Il y a même des pictogrammes neutres. C'est-à-dire avec une fille qui a une demi-jupe aux toilettes, par exemple.
Ça devient un peu compliqué quand même, Ève, là.
Bien sûr, c'est un genre neutre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en France, ça existe ? Et je suis allée à la Salpêtrière, à l'hôpital, voir Agnès Condat, qui a une consultation qui s'appelle « Identité sexuée ». Et elle me confirme que depuis quelques années, elle voit des adolescents arriver qui arrivent dans sa consultation, qui disent « je ne me sens ni fille ni garçon ». Écoutez.
Des adolescents qui viennent nous voir à 13 ans, 14 ans, 15 ans et au-delà et qui nous disent que finalement c'est pas tellement important le genre pour se définir. D'être fille ou garçon, on peut être aussi ni fille ni garçon, on peut être parfois l'un, parfois l'autre.
Alors voyez cette photo là, ces poupées là, on voit bien qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Mmh. Et c'est extrêmement courant dans les cours des collèges aujourd'hui, c'est à peu près 15 à 20% des patients, des enfants qu'elles consultent. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance aujourd'hui. Et le problème, c'est comment on s'adresse à eux quand on se sent neutre, ni fille ni garçon. C'est il ou c'est elle, écoutez.
Il faut juste leur demander comment il ou elle souhaite qu'on s'adresse à eux ou à elle. Et puis même les adolescents vous diraient, c'est pas il ou elle, c'est yel.
Voilà, c'est yel.
Yel.
On dit yel, c'est ni il ni elle, c'est yel. Et si yel, il est gentil, yel est gentil ou gentille ?
Ben on ne sait plus.
Eh ben c'est gentil. Il faut marquer le temps d'arrêt.
Combien ça coûte, vos poupées ?
Alors, les poupées, elles coûtent aujourd'hui 44 €. Et puis, pour Noël, c'est quand même l'occasion pour les parents d'ouvrir la discussion avec leurs enfants. Parce que ça, c'est très important de leur demander, au fond, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens fille ou est-ce que tu te sens garçon ? Les deux ou aucun des deux ? Et ça, je pense que c'est vraiment la révolution dans notre société chez les jeunes.
Oui, mais parce que l'adolescence, c'est vraiment la quête de l'identité. Enfin, c'est vraiment à cet âge-là où on se pose beaucoup de questions.
Et voilà, c'est important que les parents puissent ouvrir la discussion.
C'était un commentaire gentil des baroques, mais il reste à écouter la question vache de l'autre chroniqueur. Jérôme Lacroix, vous avez envie de déstabiliser Ève avec une question.
Il est trop gentil.
Vous êtes trop gentil pour
non,
pour
non, il n'est pas gentil du tout, c'est juste qu'il n'en a pas, tiens.
Il n'a pas préparé, il n'a pas bossé sa question vache, le GG.
Pas du tout, mais non, la chronique était parfaite. Non, j'ai pas de question vache. J'ai décidé d'être générosité aujourd'hui.
Oui, générosité et surtout pas bosseur.
Peut-être que notre invité Abdel Malik a une question vache.
J'allais demander à Abdel Malik si quel regard il portait sur cette évolution des poupées Barbie. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est un gadget finalement du politiquement correct ?
Oh, ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui a été dit là et important, c'est être à l'écoute, tout simplement. Et écouter. Et les enfants, écouter les enfants. Souvent, les enfants, on les écoute pas, en fait. Alors que c'est des personnes à part entière. Donc voilà, après chacun doit prendre ses responsabilités en termes d'éducation, j'ai envie de dire les parents, etc., et la société. Mais je pense que le maître mot, en tout cas moi ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est l'écoute, être à l'écoute, et notamment des enfants, aujourd'hui.
Être à l'écoute, c'est un peu la devise d'Ève Roger, chef du service vrai, Société d'Europe 1. Votre chronique a visiblement plu à notre invité suffisamment pour obtenir les 3 points. Nous le verrons tout à l'heure.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Oui, vous êtes bien à l'écoute de l'équipée sauvage. Alors, on va rester avec Mathieu Noël et Varoc. On va rejoindre l'un de nos correspondants en région. Et puis, côté invité, l'explorateur Jean-Louis Etienne est présent.
Longtemps, la figure de Marianne a été sacrée. Autour de cette table, la seule à l'avoir incarnée dans le cadre d'un podcast historique peut en témoigner.
Ah, le cochon ! Qu'on lui fasse penser, il a envie de fuir !
Aujourd'hui, dans Régional Géographique, nous prenons la direction du Sud-Ouest pour découvrir une entreprise qui propose de nous livrer des bustes de Marianne à notre effigie. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose dans mon salon. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est une société de Mérignac à côté de Bordeaux qui est capable de créer ces nouvelles Marianne.
Oui, en fait la commande elle est venue du magazine Marie-Claire qui a voulu repenser ce symbole, sortir un peu des seuls critères beauté, célébrité. Et donc le magazine a choisi 5 nouvelles Marianne au parcours et aux engagements impressionnants. Ginette Colinka, survivante du camp d'Auschwitz-Birkenau, Aurélie Dupont, danseuse étoile, la championne du monde de boxe Sarah Ouramoun, la navigatrice Marie Tabarly ou encore Martine Monteil, vous savez, la commissaire divisionnaire qui a dirigé la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Bref, de grandes dames et de magnifiques Marianne grâce à l'impression 3D, la spécialité de cette entreprise girondine, DL Additive, que dirige Raphaël Darmon.
On a demandé à ces personnes d'être réunies au même endroit sur une journée pour les scanner en 3D. Sur le même principe qu'un scanner pour scanner un document, pour pouvoir ensuite fabriquer les Marianne. Ça a duré entre 45 minutes et une heure de temps pour faire les différentes prises d'images. En fonction des technologies qu'on utilise, il y a différentes matières, donc le coût n'est pas le même, le temps de fabrication n'est pas le même non plus, donc pour le moins cher, on va être en gros, on va être à 200, peut-être 250 euros et puis sur une Marianne avec un meilleur rendu, un meilleur état de surface, on va être à 1500, 1600 euros à peu près.
Finalement, chaque mairie pourrait dire, bah, nous on a choisi de faire notre Marianne et ce sera telle dame que le grand public connaît pas forcément, mais qui a marqué cette municipalité.
On peut tout à fait envisager, effectivement, de faire de la pièce unique, c'est le principe de l'impression 3D.
Est-ce que des particuliers, à un moment, pourraient se dire, et pourquoi pas, est-ce que je peux commander une Marianne à l'effigie de ma maman ou de ma sœur?
Oui, c'est possible. Après, c'est une question de budget.
Stéphane, si j'en prends 3, parce que j'ai envie de mettre à 3 endroits, il y a mon salon, il y a ma salle à manger, et dans mes toilettes, j'aimerais un buste des Varoc.
Ah oui,
bien sûr, moi aussi, normal.
Est-ce qu'il me faut un prix?
Ah ça, je sais pas, il faudra leur demander et négocier, Mathieu. Je suis sûr que vous êtes très fort en la matière.
J'adore négocier.
En tout cas, ce qui est génial, et je le dis à ma mère, comme ça, juste en passant, c'est qu'on peut effectivement adapter la Marianne au visage que l'on veut. Voilà, on peut même mettre peut-être des
hommes.
Des hommes, exactement. Et pourquoi pas une Marianne avec une grosse barbe, je sais pas, un type assez grand, je sais pas à qui je peux penser comme ça spontanément, mais c'est possible.
Ça serait beau.
En Marianne avec des seins.
Et avec le bonnet phrygien.
Ça m'irait tellement bien. Merci beaucoup Stéphane Place pour cette découverte insolite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Un rendez-vous qui mêle bonne humeur, humour et info. Oui, c'est l'équipe est sauvage tous les jours sur Europe 1. Alors on va retrouver Mathieu Noël bien sûr, Eva Roc et maintenant Anne Le Gall.
La madame écologie d'Europe 1, qui peut s'évanouir si quelqu'un ose une vanne mettant en scène un animal qui souffre. Aujourd'hui, elle nous parle de poule. Oui, Axel ?
Passer du coq à l'âne, c'est pour la poule que c'est dur.
Oh merde, ranimons mal, vite. Une tente à oxygène.
Elle est très bonne, cette
vanne. C'est la meilleure vanne.
C'est vrai que c'est un peu...
Il faut réfléchir pour la comprendre.
C'est fatigant. C'est un peu votre meilleure vanne.
Oui, mais elle n'est pas de moi, elle est de Baffy.
Ah oui, c'est pour ça qu'elle est bonne.
Eh ben oui, je répète, moi.
Je me disais aussi, vous étiez très très bon sur ça. Alors, Anne Le Gall, reprenons nos esprits et parlons de cet œuf. Vous nous aviez apporté une boîte avec des œufs tout à l'heure.
J'ai pris une boîte d'œufs. 3 œufs dans cette boîte, a priori tous identiques. Eh bien non, celui-ci.
Ah, il est plus foncé.
Parfaitement innovant. Alors, la couleur de la coquille, ça n'a
c'est
rien à voir.
C'est très radiophonique comme chronique, en plus.
Non, mais c'est juste pour vous dire qu'il ressemble aux autres. Mais en fait, c'est un...
Vous nous suivez sur Europe 1.fr.
C'est un œuf high-tech. Cet œuf utilise la technologie du sexage dans l'œuf. Sexage innovo, je le dis en latin,
quoi,
ça fait chic. C'est une technique qui permet d'éviter qu'on tue des poussins. Parce que je ne sais pas si vous le savez, tous les ans en France, on broie 50 millions de
poussins.
Mais
c'est affreux ça. Et j'ai vu qu'on n'avait pas abrogé cette loi.
Absolument, ça a été en discussion au moment de la loi alimentation. Finalement, la pratique existe toujours. On broie des poussins mâles parce qu'évidemment, dans un élevage de poules pondeuses, le mâle ne sert à rien. Et comme sa viande n'est pas bonne, on ne peut même pas en faire du poulet à manger. Donc, désormais, il y a une technologie allemande qui permet de déterminer le sexe du poussin dans l'œuf. Comment ça marche? Il y a un bras robotique qui vient faire un petit trou dans la coquille de l'œuf du futur poussin, un petit trou de 0,3 mm, donc c'est totalement inoffensif pour le poussin. On prélève du liquide Et ça permet de déterminer de façon hormonale ensuite le sexe de l'œuf. Donc, les œufs contenant un futur poussin mâle seront détruits, les autres seront gardés. Et ça permet d'éviter effectivement le broyage des poussins.
Mais on les trouve où ces œufs dernier cri ? Parce que ça a coûté une fortune, c'est pas applicable à toutes les
Alors,
les
pour l'instant, on les trouve dans les carrefours bio. C'est une technique qui est utilisée par la marque Pool House, c'est une marque française, contrairement à
ce Pool House, c'est un très beau jeu de mots. Ça,
très beau jeu de mots, donc ça s'écrit House comme une maison, H-O-U-S-E. On trouve cette marque chez Franprix, Monoprix et certains magasins bio et Carrefour. Et ces œufs ont une autre particularité, non seulement ils sont bons, et ils rallongent la durée de vie des poules. Parce qu'une poule, normalement, sa vie, vous le savez, combien de temps ?
10 ans.
Oui, ça vit jusqu'à 10 ans.
Or, sauf en batterie, 484 jours. Ben j'ai lu ça ce matin.
Eh ben voilà,
vous avez bossé, vous,
mois.
Pour une fois. Tiens, c'est étonnant.
Effectivement, dans les
Je voulais te coincer avec cette question piège. Ben alors là, j'en ai plus.
Ah bah, du coup, t'as plus de question piège.
Si je vais en trouver une autre.
18 mois dans les élevages, la durée de vie des poules. Pourquoi ? Parce qu'après 18 mois, leur productivité baisse. Et donc, on les élimine, on les envoie à l'abattoir. Donc, cette marque Pool House a eu une autre idée, c'est de les envoyer en maison de retraite.
Non.
Donc, elles vivent dans des fermes refuges où elles vont continuer à pondre de façon moins productive, mais elles vont vivre
mais
toute
c'est
leur
bon,
vie
les œufs
de
vieille poule
jusqu'à ça a le même goût, c'est juste qu'il y en a moins.
Ah bah, c'est
et
pas,
donc
je pose la question.
Ces œufs continuent à être produits et les poules continuent à vivre. On ne les élimine pas prématurément comme ça du territoire. Donc ça s'appelle Pool House. Cette société a déjà sauvé 30 000 poules depuis 2 ans, depuis qu'elle existe. Alors les œufs coûtent plus cher, c'est 6 euros la boîte, donc 1 euro l'œuf. C'est un petit peu plus cher.
Plus cher.
Mais sachez que
si
vous
cher,
voulez...
Ouais. Ça fait cher l'omelette, là. Hein.
Mais
surtout si vous mettez de la truffe dessus.
Surtout si quoi ? Si vous mettez
si
de la truffe dessus.
Comme vous faites à chaque fois.
Annie Auditeur, Eva Rock pour vous servir, Anne Le Gall.
Et si vous voulez acheter des œufs moins chers, mais qui défendent aussi la cause animale, il y a une autre solution, c'est qu'il faut savoir décrypter les codes sur l'œuf.
Oh,
vous savez
ça ? J'ai jamais rien compris. Ouais. Je cherche souvent la date et je trouve un code. J'essaie de comprendre si dans ce code, il y a la date et à chaque fois, je me trompe.
Mais Olivier Pouls, il a dû vous l'expliquer 50
000 fois. Notre expert gastronomique. Hein. Alors, je précise un petit peu parce qu'aujourd'hui, Eva a l'impression qu'on est bien, on est avec Vincent Lacoste, l'impression qu'on est à la maison autour du feu et qu'on se connaît tous depuis longtemps.
Oui.
Non, Eva, il faut préciser, Olivier Pouls, c'est le chroniqueur gastronomique d'Europe 1 qu'on retrouve
tous les jours.
Exactement, à 6h moins le quart.
Donc sur un œuf, vous avez des chiffres et des lettres, donc la date limite de consommation. Je peux finir ma chronique, Axel, ou pas ? Donc,
alors,
c'est le chapitre de trop, là.
Vous avez... Tant pis, vous n'aurez pas le temps pour votre question vache. Donc, il y a la date limite de consommation, il y a un chiffre, 2 lettres pour indiquer le produit, d'où vient le produit, FR pour la France, et il y a un chiffre entre 0 et 1.
Et alors
il faut retenir que plus le chiffre est petit, plus le confort de la poule est grand.
Ah bon ?
C'est l'inverse des étoiles dans les hôtels.
C'est sur tous les œufs.
Tous les œufs.
D'accord.
Donc,
si c'est
0, 1... Poulailler 01, c'est top confort. C'est élevage bio en plein air. Là, la poule, elle est relax.
La poule, elle a un spa. Et...
Ouais.
Allez bien.
3, eh ben voilà. 3, c'est le pire. C'est la poule en cage. Elle ne peut pas bouger. Et 2, l'intermédiaire, la poule est au sol dans un bâtiment.
Donc c'est FR.
Quand même...
Il y a FR et ensuite
voilà,
le chiffre.
Voilà, FR et le chiffre. Poule au sol dans un bâtiment, le 2, c'est quand même 9 poules par mètre carré. C'est pas terrible, mais c'est mieux que la cage. Voilà.
Parfait. Eh bien, vous savez quoi, Anne ? Il paraît qu'on a encore le temps, je sais pas comment, pour la question vache de l'autre chroniqueur. Axel, est-ce que vous avez trouvé une autre question vache du coup ?
Oui, une poule pondeuse élevée en batterie, la confort 3, là, donc 0 étoile.
Ah non, confort 3, c'est la cage quoi.
Ouais, la cage, voilà, dans 9 mètres carrés, elle ne peut pas bouger.
C'est pire, la cage, elle ne bouge pas du tout.
Voilà, elle ne bouge pas du tout. Combien d'œufs par an pond-elle ?
Ah.
À 10% près.
Les mecs sont venus fous avec cette compétition.
J'en ai aucune idée, mais j'ai une autre réponse.
Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable.
Les téléspectateurs jugés.
Les téléspectateurs, Axel.
Les auditeurs.
Vous pensez qu'on est déjà en télé là. C'est que de la radio.
J'ai une autre info hyper importante. Vous savez combien de France de d'œufs chaque Français mange chaque année ?
Ah bah
c'est
moi,
énorme.
Moi, beaucoup. Moi, j'en mange 10
combien
par semaine.
Combien par an par Français ?
300, moi, je pense.
Mais c'était la réponse à ma question, bravo.
Oui, je parlais de ça, oui, bien sûr.
Une poule élevée en batterie,
je vous répondais,
elle fait 300 œufs par an.
Et un Français mange 220 œufs par an.
Et ben Vincent Lacoste, t'avais dit combien?
Eh oui, 300. 300. C'est pas mal.
Ouais, il était dans
bravo,
le
genre. Bravo.
Il est vraiment fort, ce Vincent Lacoste.
Alors, je me suis basé un peu, je me suis dit un par jour, et après, je me suis dit peut-être un peu moins, du coup, j'ai dit 300. Voilà, voilà comment j'ai réfléchi.
Quel bel esprit, mettez merci.
Mais nous, on vous donne des points.
Bel esprit de déduction.
Est-ce que vous, Vincent Lacoste, vous êtes, on parlait des œufs, ça vous intéresse, la nutrition, ça, vous êtes très, vous êtes né à Paris, j'ai vu, vous êtes ouais, faites ouais. partie des bobos, vous allez au Bio C'est Bon faire vos courses chez Naturalia,
oui. Je pense que je fais partie des bobos, à mon avis. Ouais. Je pense que je suis acteur, j'habite à Paris, donc par définition, je suis un bobo, je pense. Mais ouais, je mange des œufs magnifiques bio, très bons. Mais moi, vous savez, mon grand-père est paysan, donc j'ai grandi aussi au milieu des poules.
Ah,
et donc j'allais chercher les œufs.
Dans le sud-ouest
qui étaient en train d'être couvés. Hein.
C'était dans le sud-ouest,
sud-ouest ouais, dans le sud-ouest, ouais.
Vous, on vous a proposé déjà un film sur ce monde rural, ça vous dirait, ça vous tenterait ?
Donc
apparemment, c'est dans
pas.
L'air, c'est dans l'air du
moi,
temps.
Tout le monde pense que je viens du 10e arrondissement, donc évidemment, personne ne va me proposer de faire un paysan. Quoi.
Axel de Tarlé, lui, s'entraîne pour un rôle rural.
Pas du tout.
Moi, vous le tenez pas mal.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Et Mathieu Noël et sa bande revient, bien sûr, demain dès 16h pour 2h d'infos et de bonne humeur, toujours en compagnie de ses invités, les comédiens Jean-Paul Rouve et Vincent Lacoste, le slameur Abdel Malik, l'humoriste à l'affiche de la comédie musicale Ghost, Claudia Tagbo et l'explorateur Jean-Louis Etienne. Dans un instant, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, orchestré par Wendy Bouchard.